Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On finit cette magnifique semaine européenne, du moins magnifique semaine. C'était pas grandiose pour les clubs français, donc je dis magnifique parce qu'on a toujours plaisir de regarder la Ligue des Champions, l'Europa League, et puis surtout de débriefer ces matchs-là, c'est des matchs de très haut niveau. On s'est régalé tout au long de la semaine quand même. Même s'il y a eu beaucoup de défaites, beaucoup trop pour notre football français. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on se projette sur la nouvelle journée de championnat de Ligue 1. Ça reprend, 18e journée de championnat de Ligue 1 qui commence ce soir avec Auxerre Paris Saint-Germain. On est avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va Benoît?
Ah bah, il y a un sacré choc demain. Marseille-Lens.
Gros choc, il n'y a que des chocs. Là. Ah, c'est fantastique. Déjà, il y en a un ce soir, c'est Auxerre Paris Saint-Germain. C'est on vrai. Est avec Capitaine Larquet. Ah. Jean-Mi, ça va?
Oui, ça va très bien. Mieux
m'entends
que le football français. Oui,
bon.
Oui.
Donc, tu t'es régalé cette semaine, t'as regardé tous les matchs.
Ça a été magnifique. Il y a l'exception qui confirme la règle. Donc ils ont tous perdu, sauf Nice.
Et voilà. Ben voilà, bravo.
Ah, l'effet Puel.
Bah oui.
Ouais. T'as raison. J'avais pas pensé.
Ah ouais, l'effet Puel. Ouais.
Merci de me le rappeler.
Ah ouais, l'effet. Bravo Claude.
Ton véritable ami.
Ouais. Il est revenu de Toulouse, les valises pleines. Et là, ça va mieux.
Ah oui, ça va mieux.
Ah oui, il a battu une grosse équipe. On est avec
Ballon d'or.
Ah, notre Ballon d'or. Ah, oui. Ah oui. On s'incline. C'est Jean-Pierre Papin. Ah, oui. Salut Jean-Pierre.
Allez, tous à
salut Jérôme. Salut les amis.
Salut JPP. JPP avec un tout nouveau genou. Hein. Ça y est, opération en béquille, mais tout va bien.
Qu'est-ce qu'il a eu JPP? Qu'est-ce qu'il a eu?
Une petite arthroscopie pour malheureusement un accident de padel.
Ah oui, bah c'est ça. Hein.
Ah bah t'es quand même le seul à se blesser en jouant au padel, hein.
Non, je suis pas le seul, t'inquiète pas, il y a que ça à l'hôpital.
C'est vrai?
Ouais. Ah ouais, grave. Ouais.
Il a fait des papinades toute sa vie, il s'est blessé au paddle.
Écoute, j'ai vu un ancien jouer au paddle. Ah. Oui. Franchement, j'ai arrêté le paddle. Je me suis mis au tennis parce que j'ai eu honte. Non, je peux pas dire.
Bah dis.
Un ami de Jean-Michel, stop, j'arrête là.
Bah dis.
Un ami de Jean-Michel.
C'est pas ton genre de retenir.
Dis-moi,
c'est la vie privée.
Et alors
à mon avis, tu chambreras pas parce que tu lui parles pas.
Eh ben dis alors. Tu parles de qui?
Hein?
Tu parles de qui?
Oh ben un ancien.
Un ancien
grand joueur, un ancien grand coach, un ancien grand sélectionneur. Voilà. J'en dirai pas plus.
Non, Raymond.
Raymond Domenech. Incroyable.
Raymond s'est mis au padel.
Eh ben alors.
Ouais, j'ai cru qu'il allait à chaque fois qu'il touchait la balle qu'il allait se bloquer la hanche.
Eh ben c'est bien, il fait du sport. Ouais. On l'embrasse Raymond Domenech d'ailleurs, hein, Jean-Michel. Il est bienvenu quand il veut dans Roten sans flamme.
Il a trouvé son vrai sport alors. C'est bon.
Ouais, bon, ça allait pas trop vite. Hein.
Jérôme, non. Alerte. Jean-Michel, Jean-Pierre Papin, on a une grande annonce à faire ce soir parce que Roten sans flamme lance officiellement la Coupe du Monde sur RMC avec une opération spéciale. Roten sélectionneur.
Et je l'aurai.
Jérôme arrive.
On y va.
En soutien de Didier Deschamps.
Comme ça. Hein.
Jérôme va dresser sa liste des 26 bleus pour la Coupe du Monde aux États-Unis tous les lundis dans Roten sans flamme dès 18h. Ce sera pas seulement le lundi, d'ailleurs, dès que l'actu le nécessite. On parlera de l'équipe de France. De la liste évolutive de Jérôme Roten. On vous annonce ça en grande pompe ce soir. Roten sélectionneur, c'est dès lundi sur RMC. Vous réagissez au 32-16 sur le numéro WhatsApp.
Il y aura
et sur
des surprises tout au long des semaines jusqu'à la Coupe du Monde.
C'est toi qui décides. Hein.
Ah bah, de toute façon, Didier il va être obligé de s'incliner.
Ah bah oui.
Ouais.
Vu l'expérience.
Elle va évoluer la liste forcément
toutes les semaines. Je suis pas sûr, il dit
JPP. Moi non plus en fait.
Grand moment, on lance la Coupe du Monde sur RMC qui est la radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Non, on n'ira pas voir.
Et ça commence lundi.
On n'ira pas voir Koulibaly.
Voilà. On lui demandera pas d'être dans l'équipe de France.
Alors, après avoir eu 30 sélections avec le Sénégal.
Exactement. Bon, revenons au programme du jour avec la tradition du vendredi, le multiplex de Roten sans flamme à 19h. Est-ce que le RC Lens est sous pression demain? Lens est leader avec un point d'avance sur Paris qui peut repasser devant ce soir. Est-ce que Lens a vraiment de la pression sur ce déplacement à l'OM? On sera avec nos différents correspondants. Un champion du monde à 18h45 dans le Halo Jérôme. Et ce sera Lionel Charbonnier qui sera avec nous en direct de la Baie des Champs. Lionel ne reconnaît plus Lucas Chevalier. Il viendra pousser ce coup de gueule donc à 18h45. Et puis à 18h30, le procès de Bruno Genesio et de son discours fataliste hier après la défaite du LOSC à Vigo. Il y a beaucoup d'infos à donner sur Lille. Vous les aurez dans Rotten sans flamme, donc restez bien avec nous. Ça pourrait bouger d'ici quelques minutes. Et puis l'événement, vous le savez depuis plusieurs jours sur RMC, c'est qu'on vous propose de gagner l'expérience RMC autour de ce grand match de Ligue des Champions la semaine prochaine, PSG Newcastle. Ce sera mercredi prochain à 21h au Parc des Princes. L'expérience RMC, c'est que vous venez rencontrer Jérôme au Parc, ensuite vous assistez à la rencontre avec la personne de votre choix et vous revenez débriefer le match dans l'after. Pour vous inscrire, vous attendez cette alerte sonore et vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 732-16. PSG au 732-16, 18h05 sur RMC. Tout de suite, Jérôme.
Oui.
Le peuple marseillais avance droit au but vers le choc de demain.
C'est le retour des Marseillais.
Et c'est quand même plus facile d'être champion de France que
le club olympien tisse sa toile.
Si tu as l'OM, le vrai, au niveau qualité, dans les temps.
Toujours un peu plus près des étoiles.
J'ai besoin de vous témoigner ma reconnaissance, elle est sincère.
Droit au but, la magie opère pour faire vibrer la France entière.
On joue contre Lens, les premiers de Ligue 1, Gamberge, gros.
Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever.
On n'est pas bon, Lens, on peut dire au revoir.
On tutoie les sommets, car nous sommes les Marseillais.
Pour moi, c'est à l'encontre de...
Et nous allons gagner.
Quand je vous dis qu'on va finir champion de France.
Et allez l'OM.
C'est le deuxième choc de la semaine pour l'Olympique de Marseille. Trois jours après la défaite 3-0 contre Liverpool, Marseille, troisième de Ligue 1, accueille le leader Lensois. 8 points d'écart au coup d'envoi, 2 points d'avance pour l'OM seulement sur Lyon qui est quatrième. Roberto De Zerbi a repris la parole aujourd'hui. Il avait été très dur mercredi, mais aujourd'hui, il a un peu fait une mise au point avec Florent Germain qui était en direct de la conférence de presse et qui est avec nous. Salut Flo.
Salut Benoît. Salut les amis, salut à tous.
C'était important pour le coach italien de clarifier ses propos.
Oui, alors De Zerbi, il attend une réaction forcément de son équipe demain contre Lens. C'est vrai, tu l'as dit, après la claque contre Liverpool, l'entraîneur italien a ciblé ses joueurs. En gros, trop fébrile, inconstant, pas assez de compréhension ou de maturité tactique selon lui. Et le coach de l'OM, il a aussi lu et entendu les critiques sur sa tactique de mercredi. Et avant de penser à Lens, à sa manière, il a voulu y répondre. C'est factuel, on a l'une des meilleures attaques d'Europe.
Per numero di gol
ce sera donc uniquement grâce à la qualité des joueurs. Alors dans ce cas, oui, il serait juste de dire quand on perd que les joueurs ont leur part de responsabilité. Mais bon, c'est peut-être aussi grâce à notre style de jeu si on marque autant de buts. Et là, oui, ce serait logique de cibler l'entraîneur quand on perd. Mais bon, il faut se mettre d'accord. Si on passait notre temps à défendre, je voudrais bien accepter les critiques. Mais le nombre de buts marqués me fait dire que ce n'est pas tout à fait ça. Ou alors, vous devez m'expliquer. Voilà, donc il est encore un peu amer hein, et il veut quand même expliquer que c'est pas bien grave de temps en temps de cibler ses joueurs s'il y a de bonnes raisons de le faire. Donc maintenant il faut tourner la page. Il y a toujours dans les conférences de presse du coach marseillais la volonté de revenir un peu sur un faux pas précédent avant de penser à la suite. Et maintenant c'est Lens et l'objectif c'est de revenir forcément à une distance raisonnable des 100 et or et du PSG. Donc gros match demain.
Merci Florent, tu seras au commentaire.
Et ils sont là Benoît, mais bon c'est pas grave.
Ah bah excuse-moi, vas-y.
Contre la prime.
Il y a 3 points en jeu contre le leader. C'est aussi pour se rattraper de la défaite difficile contre Liverpool et une bonne manière de préparer l'autre match crucial qui nous attend et qui sera déterminant pour notre avenir en Ligue des Champions. Si on gagne, on revient à 5 points. Ça doit être notre moteur pour gagner samedi soir car il restera ensuite toute une moitié de championnat. Donc tout est possible, on doit hausser notre niveau de jeu. Voilà, et pour comprendre l'importance de bien se lancer sur cette fin janvier, début février, je vous donne les rencontres. OM Lens, Bruges OM, les deux matchs à Paris, Paris FC PSG. Entre temps, l'OM Rennes en Coupe de France. Marseille a beaucoup à perdre, aussi à gagner, mais c'est crucial cette période pour les Marseillais.
Merci Flo. Ciao, la une de Rotten sans flamme donc ce soir, Marseille Lens. Est-ce que c'est le tournant de la saison de l'OM? 32-16, Jérôme.
Bah, le tournant, ça dépend quel objectif a été mis en place en début d'année et ce qu'ils ont voulu faire. Alors, il n'y a qu'eux qui le savent. Quand j'entends Roberto De Zerbi, je me dis que c'est pour faire mieux que l'année dernière et pour venir titiller les premières places au cas où le PSG laisse des points en route, ce qui est le cas depuis le début de l'année. Il y en a un qui en profite, c'est le RC Lens. Ils sont devant le Paris Saint-Germain, un point. Alors oui, un point, c'est pas grand-chose, mais ils sont là. Et surtout, je vois que Marseille est à 8 points. Donc, si tu pars du principe que l'objectif, c'est de faire mieux que l'année dernière ou pareil, c'est-à-dire la deuxième place, bien sûr que ce match est crucial. C'est le résultat est hyper important. Et là, on parle pas de contenu, on parle juste de résultat. Parce qu'à Marseille, encore plus qu'ailleurs. Tu sais que si tu arrives à enchaîner une mauvaise série avec deux matchs à domicile, le premier c'était contre Liverpool, t'as le droit de perdre contre Liverpool de cette façon-là. Moi je pense qu'il y a eu beaucoup de manques et surtout un plafond de verre, mais ça on va pas revenir sur le match, on a fait l'analyse hier. Mais là contre Lens chez toi, tu dois emballer la rencontre. Bien sûr que Lens est solide, Lens n'est pas premier par hasard, mais quand tu vois la différence de budget, quand tu vois les objectifs du début de saison, des joueurs qui jouent la plupart, toutes les semaines, la Ligue des Champions, au contraire du RC Lens, bah, j'imagine que le rythme de ce match, ils doivent l'élever, les Marseillais, pour surprendre le RC Lens, un RC Lens qui, à mon avis, ne pourra pas suivre le rythme de la Ligue des Champions. Mais est-ce que Marseille
est capable... C'est un tournant, alors.
Oui, c'est un tournant par rapport aux objectifs de l'Olympique de Marseille. Et quand j'entends Roberto De Zerbi, c'est pour ça que j'ai attendu avant de faire mon analyse sur ce match. Parce que si l'objectif du début de saison, c'était de se requalifier juste en Ligue des Champions, ce match, en gros, il n'est pas plus crucial qu'un autre. Dire si le Marseille perd ce match-là, bien sûr que Lyon peut passer devant.
Enfin, je suis pas d'accord avec toi. Non, si tu perds celui-là, tu rattraperas le RC Lens.
Oui, mais
sauf points d'avance.
Oui, sauf que les deux premiers, tu peux les oublier. Mais il y a une troisième place qualificative en Ligue des Champions maintenant.
Oui, mais bon.
Donc heureusement pour les Marseillais, ça peut les sauver. Donc si tu pars du principe que l'objectif c'est de retrouver l'année prochaine par le biais du championnat une qualif en Ligue des Champions, ce match, bah, il est important, mais pas plus que ça. Sauf que t'es à Marseille, et Jean-Pierre est bien mieux placé que moi pour en parler. Tu sais très bien qu'à Marseille, une deuxième claque de suite en l'espace de trois jours, même si c'est une autre compétition contre le leader du championnat qui a un budget qui est bien inférieur au tien, c'est problématique.
Jérôme, n'oublie pas quand même que le dernier match de championnat à l'OM, c'est pas très bien passé.
En plus. Et moi,
tu veux dire celui au Vélodrome?
Bah,
pas
c'était
celui à Angers.
C'était contre Nantes.
Ouais. Non, dernier match de championnat à domicile.
Oui, contre Nantes. Contre Nantes. Mais moi, et je vous donne la parole, Jean-Michel et Jean-Pierre, mais moi, je finis là-dessus. Ce que je veux te dire, c'est que l'Olympique de Marseille, à domicile, que ça soit Lens ou une autre équipe, elle doit croquer dans le match, acculer l'équipe de Ligue 1, parce que j'imagine quand même, et moi j'aimerais voir ça, que très souvent, contrairement à ce qui s'est passé dernièrement au stade Vélodrome, que l'OM aille avant, droit au but, t'y vas, tu prends des risques, il y a des joueurs qui augmentent leur niveau et qui permettent à l'OM de bousculer et de gagner contre le RC Lens. Si c'est pas le cas, franchement, ben écoute, tu sais quoi, on pourra parler d'autres choses, mais moi je m'inquiète, si vraiment il y a une défaite de l'OM contre le RC Lens. Déjà, bon, les deux premières places, je viens de vous le dire, mais attention à la troisième ou à la quatrième place.
Il peut être quatrième à l'issue de cette journée.
Ah ouais. Moi, je.
Ouais, mais c'est même pas. On parle même pas que de défaite. C'est que si tu ne fais que match nul avec le calendrier à venir, tu peux. Tu te mets en danger après t'être mis en danger en Ligue des Champions, parce que certains oublient quand même que. Si le déplacement à Bruges va être compliqué, je pense que c'est une première finale pour les deux clubs.
Bon, après, tu peux même perdre à Bruges et te qualifier.
Oui, enfin, je pense qu'il vaut mieux accrocher quelque chose à Bruges. Et je pense que
au moins un point,
Oui, je pense que c'est mieux.
Au moins pour le tirage.
Mais tu verras qu'à 9, ça passera avec leur goal average.
Dans l'ambiance actuelle, les prochains matchs, avec notamment le déplacement au parc, les affaires peuvent se compliquer très très rapidement. Et moi, je vois que dans le actuellement, l'Olympique de Marseille, on a fait un débat la semaine dernière en disant est-ce qu'on a trouvé le vrai OM ? Et je crois qu'il y en a un ou deux qui ont dit on va quand même mettre le pied sur le ballon et attendre les deux matchs à venir. Notamment Liverpool et Lens.
Et qui a dit ça ?
Liverpool. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus, j'ai la mémoire qui flanche.
Monsieur Larquet, je crois qu'il a dit ça.
Et Liverpool, ça ne s'est pas bien passé dans le résultat, mais dans la manière, c'est à se trépaner. C'est fou quand même. La façon dont a été abordé ce match... C'est un match amical qu'ils ont disputé. En fait, tu peux pas rendre une telle copie d'un match capital.
Quand ça se renouvelle, c'est peut-être un problème de niveau, hein, Jean-Michel.
Et c'est pour ça que je pense que aujourd'hui, quel est le véritable Olympique de Marseille ? Bien malin celui qui peut le dire. Hein. Moi,
c'est une équipe.
Est-ce que c'est celui qu'on a vu une fois, Est-ce que c'est celui qu'on a vu contre le Paris Saint-Germain lors du trophée des champions?
Là, c'est tout le problème.
Est-ce que c'est celui qu'on a vu contre l'Atalante ou contre...
Et quel OM verra-t-on demain? C'est ça la question.
Exactement.
Ben ouais. Jean-Pierre, est-ce que c'est le tournant de la saison de l'OM demain soir?
Alors moi je vais revenir sur ce que je disais Jérôme au départ. Connaissant le club, connaissant l'investissement du club de cette année, l'objectif il était clairement de venir titiller le PSG pour le titre.
C'est clair.
Mmh. Voilà. Même aujourd'hui, si tu as 8 points de retard, l'objectif est toujours le même. Même si bon, ça quand même, c'est de plus en plus compliqué. C'est pour ça que moi, je pense que ce match de Lens, il est capital. Il est capital parce que je pense que les supporters ne leur pardonneront pas si jamais ils n'arrivent pas à accrocher quelque chose. Et quand on sait comment sont importants les supporters, à partir du moment où ça va un petit peu dérailler, ça peut être très difficile à gérer. Moi, ce que j'ai vu du match de Liverpool, c'est que j'ai vu une équipe qui voulait de la possession du ballon. Le problème, c'est que quand tu n'arrives pas à te créer des occasions et que tu tombes sur une Liverpool qui joue, eux, tout en direct, tu te prends ce que tu as pris ce week-end parce qu'à un moment, tu n'es plus capable de marquer des buts. Et chaque fois que tu prends un compte, chaque fois que tu as une action, c'est dangereux pour les autres. Ce match de Liverpool, il est dommage, mais si tu perds mercredi,
si tu perds samedi
contre Lens, c'est
pire.
C'est fini.
Ah oui. Jean-Pierre, je voulais quand même te poser une question sur le premier but. Alors on dit qu'il est c'est pas celui qui fait perdre le match 3-0. Hein,
le coup franc de Szoboszlai.
Du coup franc.
Ouais.
Mais le coup franc, dis-moi, s'il y en a un qui saute dans le mur, je dis que c'est un qui fait une erreur. Mais quand il y en a 4 sur 4 qui sautent, c'est une tactique de l'équipe, c'est une tactique de l'entraîneur. Alors, c'est quoi exactement?
Moi, j'ai essayé de réfléchir à
deux herbiers, c'est peut-être la faute de rouler. Hein.
Ouais. Il n'y avait pas de contrôle.
Moi, j'ai essayé de réfléchir. Quand
ils sautent les 4, hein. Il n'y en a pas un, ou deux.
Il n'y en a pas un qui fait le crocodile.
La question, et c'est pourquoi il n'y en a pas un qui s'est mis derrière, en fait. Ce que tout le monde se reproche allongé, un peu dans les deux. Voilà, c'est dans tous les clubs maintenant d'Europe.
Mais c'est pas prévu, ça.
Il y a toujours un mec qui s'allonge.
C'est pas prévu par l'entraîneur.
Parce que, en fait, alors, ça, c'est une explication. C'est peut-être pas l'explication, mais quand tu regardes les 10 derniers coups francs de Szoboszlai qui a frappé, il a frappé au-dessus du mur en force.
Ah, bah là, il l'a pas fait.
Oui, mais regarde, de la vidéo sur les coups de pied arrêtés, que ce soit les corners, que ce soit les coups francs.
Non, me dis pas ça, Jean-Pierre.
Mais c'est une explication, Jean-Michel.
JP, s'il en a marqué 10 en mettant une feuille morte au-dessus du mur, et que tu te dis le 11e, il va le frapper en feuille morte au-dessus du mur.
Mais tu sais
donc,
pas.
On va sauter. Donc, on ne met pas de
ben oui, peut-être
de crocodile
allongé.
De crocodile, il a dit.
Ah ouais.
Mais
peut-être.
Je veux pas le croire. Ah ça.
Je peux peut-être.
Après,
j'essaie de comprendre moi aussi. Mais
oui.
Après, Jean-Pierre et Jean-Michel sur ce match-là, il y a tellement d'erreurs. Le problème, c'est que quand tu enchaînes des erreurs comme ça trois jours avant, ça c'est malheureusement les risques quand t'as une équipe qui joue à la Ligue des Champions, ça laisse des traces pour le match du week-end. Et que aujourd'hui, tu peux m'expliquer tout ce que tu veux. Bien sûr que on peut dire crucial, pas crucial, le résultat, parce que c'est pas parce que je te dis en termes de résultat pur. Hein, je te parle pas des conséquences et de la pression, d'autant plus à Marseille si t'enchaînes une deuxième défaite de suite à domicile. Mais moi, je dis juste que quand tu prends une claque comme ça en Ligue des Champions,
tu prépares pas le match de Lens dans les meilleures conditions.
En plus, ton entraîneur, il t'a attaqué. Il a attaqué beaucoup de joueurs.
Bien sûr.
Il a dit, on a pris une leçon. Le milieu de terrain, les deux milieux, Hojbjerg, voilà. Ouais. Donc, ils ont tous été attaqués. On n'arrive pas, on fait beaucoup d'erreurs dans les transmissions. Techniquement, on n'est pas au niveau par rapport à Liverpool. Ils font pas une erreur. Ceci, t'as été attaqué. Forcément, tu mets tes joueurs en première ligne. Toi, tu te dédouanes un petit peu. À l'arrivée, il essaye de nous expliquer que quand ils sont géniaux sur certains matchs en Ligue 1.
Son bilan encore.
Le nombre de buts.
si c'est le genre à vouloir se dédouaner, en fait.
Mais si, Jean-Pierre, écoute, voyons, à chaque fois, c'est jamais de sa faute. Et là, pour expliquer ses critiques, il te dit, ah bah oui, mais regardez, on est la troisième meilleure attaque d'Europe, écoute, on est la meilleure attaque de Ligue 1. Moi, et c'est peut-être grâce à moi aussi.
Jean-Pierre,
c'est un fait, ça.
Moi, tout ce que je vois, c'est que ces joueurs sont fébriles en Ligue des Champions. Et pour moi, il y en a beaucoup, malheureusement, qui n'arrivent pas à élever leur niveau et qui ne sont pas au niveau de la Ligue des Champions de ces gros matchs-là. Et que De Zerbi aussi, pour moi, le plafond de verre aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain il n'y arrivera pas, mais quand tu vois les stats de Zerbi en Ligue des Champions, le nombre de matchs joués, le nombre de défaites, mais ça fait mal à la tête. Hein.
Tiens.
Ça fait mal à la tête.
Accueillons
et
Florent.
Ça, je pense qu'il en a conscience, De Zerbi. Quand il regarde son bilan, t'en fais pas, il est assez malin. Aujourd'hui, les datas, il regarde tout sur les joueurs et tout. Tu regardes qu'il ne regarde pas les datas sur lui, sur les matchs de Ligue des Champions. Il n'y arrive pas.
Florent, supporter de l'OM au 32-16, Jérôme.
Salut Flo.
Salut les gars.
Bienvenue Flo.
Salut.
Bon, merci. Alors qu'est-ce que t'attends déjà du match de demain et déjà d'attendre une réaction, ça je pense que tout le monde l'attend du côté marseillais, mais est-ce que pour toi le résultat il est crucial demain?
Alors ouais, le résultat il est crucial si on veut espérer finir sur le podium, parce que derrière ça pousse et que il va falloir un petit peu qu'on arrête avec cette ce côté, un coup on gagne, un coup on est fantastique, et nous à Marseille on s'enflamme tous très vite sur les résultats en se disant bah, au début de saison on était champion, tout était bon, et puis après c'est le problème de l'OM avec cette peur de gagner depuis 20 ans, tous les matchs qu'on doit gagner on les perd. Demain on attend tous que justement on gagne, parce que cette année contre les gros, on a perdu tous nos matchs à part Paris. On a perdu contre tous ceux du top 8, si je dis pas de bêtises. Donc oui, on attend une réaction. Et le vrai problème, c'est que maintenant, on y est habitué. C'est que on va aller au stade. Et perso, j'y vais en me disant que ça va être très compliqué. Comme ça, je serais pas déçu si on finit un match compliqué. Et on sera tous contents si on gagne. Mais le problème qu'il y a avec cet OM depuis des années, et particulièrement là depuis, on va dire, le deuxième tiers de la saison.
Il est inquiétant ton discours, hein, Florent. Quand on voit que même toi, t'as peur quand il va et que tu te dis ce qu'il faut, c'est pas perdre, c'est pas rassurant.
On va être cash. Je voulais intervenir aussi hier, par exemple, par rapport aux supporters, si on méritait cet OM-là.
Oui, c'est à
19h. Ça fait 21 ans que je suis supporter, que je suis abonné au stade. Mon fils, il a 10 ans. Ma fille, elle a 6 ans. Ils sont abonnés en virage sud, ils viennent avec moi demain encore. Mon fils, c'est ce que je lui dis, quand il allait voir son problème au MPSG en Coupe de France, et qu'après on perd contre Annecy, c'est la première fois qu'il a pleuré au stade. Je lui dis, en tant que supporter de l'OM, c'est la première, ce ne sera pas la dernière. Malheureusement, on est né pour souffrir à l'OM, c'est ce qu'on dit souvent. Ce club-là, il nous amène des émotions énormes, mais malheureusement, tellement de désillusions qu'aujourd'hui, on y va, on adore ce club, on y sera tout le temps, on sera toujours là, mais malheureusement, il y a tellement de matchs fantastiques. Regardez le match au Trophée des Champions, entre guillemets, on a fait un match génial
et ouais,
on a plus ou moins donné deux buts, alors qu'avant on s'est pris 2-0 contre Nantes. Moi je joue au ballon, je me suis fait traquer comme pas possible, j'aurais dit la veille, j'ai dit vous verrez demain, on est capable de gagner. Donc on est capable de perdre contre le dernier à domicile devant 70 000 personnes, mais par contre d'aller à Dubaï, ou je sais même plus où est-ce qu'il était.
En Koweït.
Voilà.
Tiens, Florent, Jean-Michel veut réagir à ce que tu dis depuis tout à l'heure.
Non, mais Flo, je comprends que ce soit pour toi le.
Flo.
Le chaud et le froid qui soient en permanence soufflés par ton équipe. Mais quand tu parles de la peur de gagner, tu sais, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens de gagner qui ont peur de gagner. Ceux qui ont les moyens de gagner, ceux qui ont le talent pour gagner, ils ont plutôt la peur de perdre, parce qu'ils se disent si je perds, c'est pas normal par rapport à mon niveau. Et moi je pense que l'équipe telle que je la vois aujourd'hui, d'après les joueurs, alors je te parle pas sur un match, je te parle au niveau de la régularité, c'est que je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas le niveau souhaité ou le niveau digne d'un club comme l'Olympique de Marseille. Je pense par exemple que ton milieu de terrain, Flo,
moi s'il y avait que ça, Jean-Michel.
Oui, bah justement, alors, Jean-Michel, juste la reprise hivernale. Timber sera dans le groupe demain pour affronter le RC Lens.
Mais ça veut tout dire. Mais Benoît, ça veut tout dire.
Bien sûr, on se presse de mettre dans le groupe.
Non, mais ça veut tout dire. Et Jean-Michel, t'as raison, ça veut tout dire. Et Benoît, pour réagir à cette info, t'imagines quand même que l'année dernière, du moins au mois de septembre, donc c'est pas si vieux que ça, t'as changé 13 joueurs.
Ouais.
D'accord. Ça, et que là, t'attends absolument que Timber et le jeune
Noignery
aussi soient dans le groupe pour te bonifier, si tu veux, un peu un secteur qui fait du mal à l'Olympique de Marseille. Mais c'est
comment
en fait,
il s'appelle la recrue Jérôme Noirenil Noignery.
Noignery, pourquoi mais Gaucher, non, mais après, c'est un très bon jeu. Il a 18 ans.
Prêté par Arsenal.
Il a 18 ans. Donc maintenant, on va attendre que ça soit la pépite. Bon, lui, il n'est pas qualifié en Ligue des Champions. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses sur l'ambiance de ce club-là. Quand en début de saison, on se braque parce qu'on se dit la stabilité, c'est important. Quand un club a réussi à finir deuxième l'année dernière au championnat, à la grande surprise, parce que c'était pas facile la mission pour De Zerbi, de créer un collectif de nous expliquer que c'est normal de changer 13 joueurs. Aujourd'hui, regarde les effets. C'est que t'as des joueurs qui sont arrivés au mois de septembre qui ont
mais
déjà.
Comme l'année dernière, Jérôme.
La porte, elle est ouverte.
C'est pareil.
Voilà. Mais comme
l'année dernière.
Brassier. Il y en a eu d'autres et d'autres qu'on oublie parce qu'il y en a tellement. Ouais. Et que là, maintenant, on t'explique qu'il y a deux joueurs d'Arsenal. Bah, c'est ça qui va changer la façon de jouer de l'OM. Et qu'on se pose la question aujourd'hui de savoir si l'OM va être au rendez-vous pour battre la grosse équipe de Lens.
C'est
21h05. Mais c'est quand même incroyable, quand même.
Merci à Florent qui est venu au 32.
Vous trouvez pas ça fou?
Ah, bah ça, j'ai toujours, je suis fou.
Allez, encore. Expérience RMC.
Expérience RMC, PSG Newcastle, mercredi, vos deux places pour le match. L'analyse dans Rotten sans flamme, le débrief dans l'after. 5 minutes pour envoyer PSG au 732-16. PSG au 732-16. Restez là dans un instant avec nous parce qu'on va ouvrir le procès de Bruno Genesio, l'entraîneur lillois, et de son discours fataliste. Et surtout, il y aura des infos.
Beaucoup d'infos
autour du cas justement Genesio avec Fabrice Hawkins qui sera avec nous d'ici quelques secondes. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h31 sur RMC, la deuxième demi-heure de Rotten sans flamme de ce vendredi soir. On a hâte d'être à 19h et de retrouver nos correspondants pour toutes les dernières infos avant de cette 18e journée de championnat de Ligue 1 qui commence ce soir. On est avec Jean-Michel Larquet, avec Jean-Pierre Papin et avec Benoît Boutron à 18h45. On aura
Lionel Charbonnier. En direct de son jardin, la Baie des Champs.
Charbot, il n'est pas carbo, je vous le dis.
Il est pas
carbo. Donc soyez là à 18h45.
Et surtout, il a des avis tranchés. Il ne reconnaît plus Lucas Chevalier. Il viendra nous parler de tout ça. Ce soir, c'est Auxerre PSG dès 20h.
Il veut mettre la pression sur Lucas avant le match. On a compris. L'Auxerrois, il est là. Ben oui.
Tactique bourguignonne.
Attends, écoute, on lui parlera des ballons, tiens, du poids des ballons.
Ah, et de la taille, hein, Jean-Michel.
Ouais.
Comment bon, on verra ça. Tout à l'heure. Allez, tout de suite, on parle du LOSC.
RMC, Rotten sans flamme.
Quand vous reproduisez les mêmes erreurs depuis 4 matchs, c'est pas que la réussite. Donc tout le monde va devoir assumer. Moi, je vais assumer le premier, puisque c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui fais l'équipe. Donc, forcément, le premier responsable, c'est moi. Et je vais assumer mes responsabilités. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui doivent se remettre en question et assumer les leurs. Vous verrez dans les jours qui viennent. Vous verrez ce que ça veut dire.
Le procès de Rotten sans flamme.
La quatrième défaite d'affilée pour les Lillois hier soir à Vigo en Ligue Europa, défaite 2-1. Le premier but encaissé au bout de 35 secondes. Une erreur, encore une pour Alexandro, le défenseur central brésilien. Peut-être la défaite de trop pour Bruno Genesio. Vous avez raison d'écouter RMC parce que c'est là que ça se passe et qu'il y a des infos RMC Sport grâce à Fabrice Hawkins. Salut Fabrice.
Salut les gars.
Salut Fabrice.
Information importante.
Qu'est-ce qu'il va nous dire?
Bruno Genesio a donné sa démission à la direction du LOSC hier soir, après le match.
Oui, effectivement, on l'a entendu hein, dans le générique. Bruno Genesio, il a dit vouloir assumer ses responsabilités. Il expliquait hier en conférence de presse qu'on allait voir dans les prochains jours ce que ça voulait dire. Eh bien, on a enquêté forcément et il nous a pas fallu beaucoup de temps pour avoir cette info. Aujourd'hui, elle est tombée. Hein, information RMC Sport, tu le disais. Bruno Genesio a demandé à partir. Il a demandé à partir à Olivier Létang, son président, qui a refusé cette demande dans la foulée du match et de la défaite contre le Celta. Alors l'entraîneur Bruno Genesio ne se sent pas bien, ça c'est un secret de Polichinelle, hein. Il y a une forme de malaise qu'il a communiqué à ses dirigeants, qu'il laisse aussi transparaître ces dernières semaines. Il y a un point de crispation, un parmi tant d'autres, mais celui-là est important, c'est le mercato, avec des divergences de vision entre lui et Olivier Létang. Le président a toujours le dernier mot, et avec les blessures, Bruno Genesio aimerait eh bien plus de renforts qui ne viennent pas pour le moment, et donc il est désabusé. Il était prêt, c'est vrai, après cette quatrième défaite depuis le début de l'année, quatrième défaite pour le LOSC, il était prêt à démissionner. Lui à qui il ne reste que 5 mois de contrat, Olivier Létang l'a retenu. On va voir comment ça va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais le président du LOSC s'active par ailleurs pour renforcer l'équipe.
Comment vous réagissez? Allons-y sur ce procès, parce que ça donne de la force en plus au procès qu'on voulait mettre en place. Bruno Genesio et sera défendu par Jean-Michel Larquet et Jean-Pierre Papin. Toi, tu voulais l'attaquer, Jérôme. Est-ce que ça te conforte dans ta position, alors?
En fait, je vais attaquer Bruno, pas par rapport au résultat. Et c'est sûr que c'est plus compliqué en ce moment. C'est quatrième défaite de suite, toute compétition confondue. L'élimination en Coupe de France, en championnat, deux défaites de suite qui font un peu tâche. En effet, dans la lutte pour le podium, parce que c'est l'objectif du LOSC, même s'ils sont pas totalement largués. Et en Europa League, ils étaient très bien au bout d'un moment. Et là, ils se retrouvent en difficulté, où il va falloir gagner le dernier match s'ils veulent arracher le barrage. C'est la vérité, elle est là. Donc forcément, c'est qu'il y a des difficultés. Moi, ce que je reproche à Bruno Genesio, comme ce que je reprochais à Francaise, ouais,
c'est un peu le même scénario.
Oui, mais en fait, Jean-Michel,
c'est pas la même équipe, mais c'est des entraîneurs qui baissent les bras.
Jean-Michel, moi et Jean-Pierre, vous pouvez le défendre, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve qu'il est indéfendable dans son discours. Dire si tu veux te barrer. Déjà, tu dis à ton entraîneur, écoute, je pose m'ADEME, mais je me casse. Je pose m'ADEME, je me casse. Et là, il y a pas de problème. Ça veut dire qu'il y a vraiment un ras-le-bol et qu'en effet, il comprend pas la gestion du club, le recrutement ou tout ce que tu veux, ou les joueurs, son discours ne passe plus. Et ça, c'est un constat que Jérôme Roten ou Jean-Michel Larquet ou Jean-Pierre Papin, on ne peut pas dire parce qu'on n'est pas au quotidien avec eux.
Moi,
ce que je constate juste, c'est que dans son discours, et c'est pas le premier match. Après les matchs, c'est souvent des plaintes des arbitres, des plaintes des joueurs, des plaintes des blessures, des plaintes de ceci et de cela. Et que même lui, il dit, on doit assumer et je dois assumer. Bah, assume, Bruno. Ça fait, quand tu gagnes, c'est plus facile.
Pour le coup, c'est ce qu'il a fait hier.
Quand tu gagnes.
Bah, il assume,
parce qu'il a posé démission, Jean-Pierre, et posé démission. Ce que je veux dire, c'est que Francaise, il a posé sa démission, mais il réclamait, des indemnités.
Mais
c'est la vérité.
Ça s'appelle pas une démission. Si tu veux te tirer avec les indemnités,
Pourquoi Jean-Michel, toi demain t'es entraîneur, moi je suis entraîneur de Lille, je dis j'en ai marre, je pose ma démission, mais pourquoi tu restes?
Bah oui.
Parce que ton président, parce qu'Olivier Létang,
qui
soi-disant, t'as mis des bâtons dans les roues ou n'est pas allé dans ton sens sur le recrutement, il te dit Bruno, tu restes, je vais t'obliger. Mais t'oblige à quoi? En fait, on parle bien de football, passion d'entraîner. S'il est fatigué, quoi? Rentre à la maison et tu prends tes 6 derniers mois,
on
déchires ton
procès.
Hein?
Même pas chez moi.
On va faire un procès.
Mais je comprends pas, comment vous pouvez défendre ça?
Non, mais quand tu poses ta démission sur un contrat à temps, d'accord?
Un CDD.
À partir du moment où tu poses ta démission et que tu t'en vas sans l'accord de M. Létang, normalement, dans ces cas-là, le club, puisque tu ne respectes pas ton contrat, tu poses ta démission, Bruno Genesio va devoir normalement payer parce qu'il pose sa démission. C'est ça que tu ne comprends pas. Alors que Francaise, c'était exactement le contraire. Il disait, si je suis le problème, je m'en vais. Je m'en vais à une condition, c'est que vous me payez les mois qui me restent à entraîner. C'est tout à fait le contraire. On est à l'opposé. Donc, comparer les deux situations me semble incroyable.
Mais est-ce que
c'est
tu comprends cette décision de la part de Genesio?
Comment?
Est-ce que
je
tu la comprends
qu'à un moment
cette
donné,
de
je comprends qu'à un moment donné, il faut qu'on attende un tout petit peu. Et Fabulous, il est sur le coup. À mon avis, les gars, les personnes avec qui il ne s'entend plus. On doit chercher peut-être du côté des joueurs, on doit peut-être aussi chercher du côté des gens en costume. J'en sais rien, mais je voudrais bien savoir avec qui il a des gros problèmes.
Et bah pourquoi alors, il ne le dit pas problèmes. Alors
ouais, parce que c'est pas lui de le dire, Jérôme.
Bah,
on ne peut pas donner un problème.
Jean-Michel a raison, peut-être les connaît, s'il ne les connaît pas.
Si
là où Jean-Michel a raison, c'est qu'il y a évidemment de la déception au niveau des joueurs, puisque beaucoup ne donnent pas satisfaction. Et pour le coup, là, ils se rejoignent avec Olivier Létang, qui lui aussi est déçu par un certain nombre de joueurs. On pense notamment aux gardiens, on pense aussi à certaines recrues, aux ailiers, Félix Correa, etc., etc. Mathias Fernandez Pardo, lui aussi. Qui est la cible de plusieurs points de crispation au club, mais il faut aussi dire que, et ça aussi c'est pas un secret, entre Olivier Létang et Bruno Genesio, c'est pas très fluide. Hein.
C'est pour ça.
Je crois pas que ce soit. C'est pas un grain de sable qu'il y a. Je pense qu'il y a du gros gravier quand même.
Ça fait un moment. Jean-Pierre.
Voilà. Et en plus quand tu
trouves ça, donc tu défends Genesio sur quoi en fait? Tu trouves ça normal qu'il pose sa dème ou qu'il ait un...
Non, mais son discours de circonstance, pour moi, il est logique. C'est qu'il va aussi dire que lui, il est responsable parce qu'il fait l'équipe, et ça, tout entraîneur le fera la même chose. Maintenant, il a pointé quand même certains problèmes qu'il a avec ses joueurs. Parce que moi, je suis désolé, mais dans les 5 derniers matchs, quand t'as 3 cartons rouges dans les 10 premières minutes,
tu prends 2 buts en 1 minute,
tu peux pas trop gagner. Donc, il doit assumer, et il fait passer le message quand même que ses joueurs doivent assumer, et ça va apparemment, je pense, un peu chauffer dans le vestiaire. Et après, s'il y a des problèmes derrière, sincèrement, aujourd'hui, on sait plus ou moins qu'ils sont pas d'accord sur les arrivées, etc. Mais pour moi, son discours, je pense qu'il est de circonstance par rapport à ces mauvais résultats de ces derniers, ces derniers temps.
Mais Jean-Pierre, moi, je comprends tout ce que vous dites avec Jean-Michel. Il y a pas de souci de lui trouver aussi des circonstances atténuantes, et surtout, il est pas le seul responsable. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Moi, où je voulais l'attaquer, lui et d'autres qui tiennent ce discours-là, je sais pas. Aujourd'hui, quand tu regardes, même si en ce moment c'est la 4e défaite du suite, et t'as pris des claques, ok. Mais excuse-moi, Lille, ils sont pas largués en championnat parce qu'ils sont totalement encore là pour.
Ils sont pas largués en Ligue Europa.
Donc mais deux objectifs du début de saison. Si tu veux, ils sont pas morts.
Encore
les objectifs.
Envisageables.
Voilà. Mais vous pensez que il va réussir à les atteindre? En ayant ce discours-là,
je pense que ça peut aussi toucher quelque chose.
Réveiller le vestiaire.
Mais c'est la question que vous posez juste pour terminer, messieurs.
Mais moi, quand tu sais, parce qu'on est passé par là, Jean-Pierre, quand tu sais que ton entraîneur, il a baissé les armes, il a rendu les armes à Olivier Létang. Moi je démissionne parce que j'y arrive pas.
Moi je crois pas qu'il ait baissé les armes.
Si tu proposes ta démission,
tu peux avoir un discours, mais tu peux aussi proposer ta démission pour faire réagir tout le monde.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que si Olivier Létang il est pas content, mais il prend ses responsabilités, il le vire, il lui fait un chèque.
La question, c'est la raison de lui dire de refuser la démission, de lui dire de rester. Est-ce que ça c'est une bonne décision de dirigeant? Vous avez vu que ça a pas marché à Nice, par exemple.
Mais de toute façon, pour moi, c'est voué à l'échec. Le message qu'il envoie, ça veut dire que il manque d'énergie, de solution pour faire rebondir le club.
Ou alors il n'y a que les joueurs qui sont capables de relever le défi.
Donc les temps se trompent en voulant le garder.
Mais les joueurs, Jean-Pierre, t'as regardé le match comme moi hier. Les joueurs, quand tu vois qu'Alexandro, alors qu'il a fait déjà une grosse connerie le match contre Rennes, et hier, au bout de 40 secondes, il est capable de te faire une passe pied droit, transversale dans l'axe. Non mais franchement, écoute, t'as vu ça où? Même en district, tu fais pas ça. Peut-être qu'en district, mais le problème c'est qu'en district, le mec il te fait ça, tu le fais plus jouer derrière.
Bon, si en district tu pardonnes. Et après,
non mais ça je suis d'accord, Jérôme. C'est pas faux. Est-ce que là, il a bien dit, Bruno, il a pris ses responsabilités, il a dit maintenant moi je vais assumer. Mais il y en a qui doivent assumer sur le terrain aussi.
On est d'accord.
Et ça maintenant on va voir sur le prochain match. Maintenant que Olivier Létang a refusé. le prochain match va être parlant pour beaucoup de gens.
Moi je te dis, dans ces cas-là, donnez l'équipe à Stéphane Pichot qui entraîne la réserve, il me semble. Donne l'équipe à Stéphane Pichot, il va avoir l'énergie, il va être rafraîchissant et peut-être qu'il aura les solutions pour réveiller ce vestiaire. Mais là, Bruno Genesio, moi je pense qu'il a plus de solutions. Quand tu l'entends, son discours, c'est comme Franquès, c'est pareil. Même discours, c'est terrible. Pour un joueur, c'est terrible d'avoir un entraîneur comme ça qui tient ce discours-là.
Vous avez toutes les infos sur rmcsport.fr. Merci Fabrice Hawkins. C'est dans un instant, direction la Baie des Champs avec Lionel Charbonnier. C'est le Allo Jérôme. Il ne reconnaît plus Lucas Chevalier, le gardien de but parisien. A tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h48 sur RMC, les 10 dernières minutes de Roten sans flamme de la première heure. Et quel Allo Jérôme, Lionel Charbonnier, la légende auxerroise, sera là dans un instant dans les buts pour analyser les performances des gardiens et surtout de Lucas Chevalier. Ah, il veut lui mettre la pression. On va lui poser la question à Lionel. On est avec Jean-Michel Larquet, avec Jean-Pierre Papin, avec Benoît Boutron. Et après 19h.
Multiplex. Voilà, on va lancer justement cette 19e journée de Ligue 1. C'est le multi, on reparlera du RC Lens. Est-ce que Lens est sous pression pour le match de demain soir? Lens est premier et se déplace à Marseille. On rappelle l'info RMC Sport qui vient de tomber. C'est donc la démission posée par Bruno Genesio après la défaite de Lille sur la pelouse du Celta Vigo. Démission refusée par le président Olivier Létan. Ah. On en reparlera tout au long de la soirée sur RMC.
On va avoir un bon week-end, Gibo. Hein.
Allons à la Baie des Champs. Ouais.
RMC, Roten sans flamme.
Boris Diaw est resté, je crois. Elle avait annoncé sortant, mais il est resté, mais blessé.
Boris Diaw, pour le coup, lui, il a arrêté le basket il y a un moment. Mais Maurice Diaw.
Pas Boris Diaw, Boris. Pardon.
Il est bien resté sur le terrain. Alors, ils ont un peu la même envergure. Grand cuir.
Allô, Jérôme.
Le grand Lionel Charbonnier en direct de son jardin, la Baie des Champs. Salut Lionel.
Ah, les bandits. Salut messieurs. Salut Jean-Michel. Salut JPP, Jay, Benoît. Salut, salut à toutes et à tous.
Ravi de t'accueillir.
Ils t'ont laissé rentrer à la Baie des Champs.
Bon. Bah écoute, Jay, tu sais quoi, c'est plus facile de rentrer à l'Elysée que.
Ils t'ont fouillé ou pas? Ils t'ont fouillé?
Non.
Alors, ils te fouillent pas.
Bon, on a besoin d'un spécialiste.
J'en connais où on est fouillé, moi.
Ah oui, à Geoffroy Guichard, quand on est légende de la Saint-Etienne, on est fouillé. C'est une autre anecdote terrible.
Mais bon, à la Baie des Champs, apparemment. Bon, vaut mieux pas parce qu'avec sa bouteille de pinard qu'il a.
Dans la poche. Ouais, dans la poche arrière droite, toujours pareil.
Le Chablis, ouais.
Lionel, on t'a convoqué parce qu'on voulait parler avec toi du match qui attend la JOCR ce soir face au Paris Saint-Germain. Donc face à Lucas Chevalier, tu es spécialiste du poste, toi Lionel, depuis de nombreuses années sur RMC. Ah bon ? Et tu ne reconnais plus Lucas Chevalier depuis qu'il est arrivé au PSG. Excellente remarque dès le début de saison, tu nous as dit qu'il fait plus petit dans le but. Et là, les semaines passent et il est toujours autant en difficulté. Et ça te pose le problème. Petit.
Bah oui, ça me pose un problème. Oui et non, parce que en fin de compte, ça me prouve que j'avais raison. C'est-à-dire que au départ, quand tu signes, t'es au LOSC et tu signes au PSG, tu changes de statut, tu changes de sport. Ton sport de gardien de but n'est plus du tout le même. C'est-à-dire que tu passes d'un club où tu es canardé, en tout cas, t'as beaucoup plus d'occasions d'être en lumière. Un poste où parfois il peut arriver où t'as deux occasions, il va falloir les sauver. Ça, c'est vraiment un autre métier. C'est ce qu'on avait dit et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que alors dire que je reconnais plus Lucas Chevalier, c'est pour moi c'est faux. Je le reconnais parce que j'ai vu un Lucas Chevalier se faire canarder contre l'OM. Il a été excellentissime. J'ai retrouvé le Lucas Chevalier de Lille. Par contre. Là, il faut encore qu'il apprenne à gérer ce stress, la concentration et tout ça. Lorsqu'il y a un arrêt à faire, un arrêt décisif, et il faut le faire. Là, tu passes. Et surtout, que tu le fasses en Ligue 1, tu t'apprends ton métier avec la Ligue 1, mais lorsque tu arrives tout de suite en Europe, là, et là, JPP le sait, la moindre déviation, si elle est mal faite, tu la payes cash. Et ça, c'est un souci pour moi. Et c'est là-dessus que je voulais intervenir. Ouais. C'est-à-dire
Lionel, moi, je te pose une question sur le. Parce que. Alors, il y a les arrêts, il y a les erreurs, il y a tout ce que tu veux. Mais il y a aussi un climat de confiance.
Oui.
Quand tu es un gardien de but, quand tu rentres sur le terrain, tu donnes confiance déjà à ton coéquipier, c'est la moindre des choses, et à tes défenseurs. Mais surtout, aussi, à tes supporters. Moi, je sais que je fais tous les matchs au Parc des Princes. La vérité, c'est que je ressens pas quand Lucas Chevalier est sur le terrain, alors que c'est fou ce que je vais dire, mais Safonov, quand il a joué,
Oui, je suis d'accord avec toi.
Santé de la sérénité.
Ben oui.
Je suis d'accord avec toi.
Alors, comment tu l'expliques, ça?
Tu l'expliques parce que ce que toi, tu ressens, ce que les spectateurs y ressentent, et c'est ce qui se passe, et c'est pour ça que le football, il est magnifique, ce que le spectacle, que tu vois quelque chose, mais tu ressens aussi, tu as des énergies qui arrivent, et c'est toujours mieux d'aller dans un stade plutôt que de le regarder à la télé.
Tu penses, Lionel, que le chevalier, il est dans l'état des spectateurs, c'est-à-dire qu'il est lui-même impressionné et que ça se ressent son...
En tout cas, ça rejaillit. Oui, je pense qu'il se sent pas bien, Jean-Michel. Il se sent pas encore maître de ses 16 mètres. Et il sait que sa défense ne lui fait pas entière confiance. C'est aussi, tu sais, c'est, vous le savez, JPP, Jay, tout ça, vous le savez, ça se travaille aussi à l'entraînement. Quand tu arrives à l'entraînement, que tu es en retard par rapport aux autres, il y a un groupe qui fait un petit déjeuner, par exemple à 8h30 jusqu'à 9h30, il y a petit déjeuner. Ouais. Que le groupe, il arrive pratiquement tous, allez, à 9h moins le quart, ils sont tous là, ils déjeunent ensemble. Ils ont fini à 9h15. Et que toi, tu arrives à 9h15, qu'ils sont tous partis et que tu te retrouves tout seul. Bah, quelque part, c'est un petit problème d'intégration. Ah, ça, ce sont des petits trucs au quotidien. Jay, tu le sais parfaitement, c'est la vérité. Mmh. Et donc, ça, c'est un problème.
Est-ce que son problème aussi, tu disais de gérer cette arrivée au Paris Saint-Germain, mais est-ce que c'est pas aussi de gérer la concurrence qu'il n'avait pas à Lille? Parce que j'ai regardé les joueurs qui étaient à Lille, il avait le petit fils Olmeta, il avait Manon qui a 37 ans ou 38 ans. Enfin bon.
Ouais, mais tu sais, Jean-Michel, il a été pris dès le départ, il a été imposé. La concurrence, pratiquement, elle n'existait pas.
Elle n'était pas là au début, bien sûr.
Elle n'existait pas, il n'était pas meilleur pour autant. Maintenant, ce que
dans la première occasion, il a été mis en difficulté.
Ouais.
Oui. C'est quoi la suite, Lionel? Quel sera le déclic? Comment ça peut s'améliorer, cette situation, pour Lucas Chevalier, alors?
Avec le travail, avec l'expérience, ça va dépendre de ce que veut faire, du management de Luis Enrique. Je sais qu'il regarde, lui il le regarde, mais il regarde aussi son groupe. Est-ce que lui bonifie son groupe? Vous savez, un truc aussi très important. Il y a deux trucs très importants sur lesquels je suis pas intervenu. Un très très bon gardien de but. Il n'arrête pas les buts parce qu'il est canardé, parce qu'il fait des arrêts de tous les côtés. Un très très bon gardien de but, il arrête les buts avec la voix. Il place ses joueurs. Ses joueurs l'écoutent, il est respecté. Ça revient à ce que tu me demandais tout à l'heure, Jérôme. Mmh. Et ça, que ce soit les spectateurs, mais surtout la défense, voire même les milieux défensifs, ils s'en rendent compte. Donc ça, pour moi, il ne l'a pas. Il faut qu'il ait un peu plus... faut qu'il gagne le respect, parce que ça se gagne. Le respect, ça se demande pas.
C'est sûr.
Il faut qu'il gagne le respect. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, on est aujourd'hui avec des gardiens de but. Jean-Michel, tu vas comprendre ce que je veux dire, parce que je crois que tu t'es battu aussi pour ça. Même quand je jouais, des fois, tu me le reprochais. On tombait.
On s'y allait que ça.
Oui, c'est pas grave. mais c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on est passé d'une technique de blocage de ballon à une technique de déviation.
Ah oui.
Alors là, le deuxième but, pour moi, il est pour lui. Ça se joue, c'est imperceptible. Mais... ça se joue à une inclinaison de poignet de 5 ou 6 millimètres que tu vas travailler à l'entraînement tous les jours, où tu vas dévier le ballon dans une grâce à la prise d'info que tu auras eue très rapide. Où est-ce que j'ai des joueurs qui sont à moi? Où est-ce que j'ai mes coéquipiers? Où est-ce qu'ils sont les adversaires? Il y a un trou à cet endroit-là. Je ne veux pas la mettre en corner. Pourquoi? Parce qu'en corner, on va être en difficulté. On le sait, le PSG est en corner. Donc celle-là, on l'oublie, la déviation du corner. Donc généralement, ça va être dans un endroit. Je vais incliner mon poignet. C'est imperceptible. Mais que la balle soit forte ou pas forte, parce qu'on m'a dit oui, mais c'est des trucs forts, c'est ci, c'est ça. Non, professionnel, très haut niveau, c'est à 5 mm. C'est du millimétrage. Mais bien évidemment. Et donc ça se travaille à l'entraînement tous les jours. Comment ça va se passer? Moi, je pense que ça sera par rapport à la gestion de Luis Enrique. Mais je rejoins Jérôme. Moi, quand il y a eu Safonov, j'avais une impression que le but était plus petit. Ils avaient mis un but de hand à Chevalier, lui mettre un but plus grand.
Ça va être une drôle de période quand Safonov sera opérationnel.
Écoute, moi, je suis tombé entre les deux générations. Il y avait la génération, comme a dit Lionel, où il bloquait les ballons, et la génération maintenant où il bloque plus le ballon, il repousse. Voilà. Et ben, Mickaël Andreu est tombé entre les deux.
C'est sûr,
on t'embrasse.
Tu regardes De Réa, par exemple, il y a deux jours, ou c'était hier ou avant-hier, je sais plus, De Réa. quand il a fait ses arrêts, toutes les déviations qu'il a fait, c'était jamais dans les pieds, même de ses défenseurs. Parce que les défenseurs, ça devient une vraie galère, Gérard.
Écoute, je sais pas si on pourra le juger ce soir, s'il aura un tir à arrêter.
Bah, on verra, bah,
peut-être
sûr,
un ou deux.
Mais 20h, le coup d'envoi de ce Auxerre Paris Saint-Germain, lancement de la 19e
journée. Merci Lionel.
Avec Lionel Charbonnier au commissaire.
Salut à tous.
Et dans un instant, justement, là.
Bravo Lionel, c'était intéressant. C'est dommage que quand t'étais joueur, t'as pas appliqué tout ça, toutes ces règles-là.
Non, si, quand même. Respecte-le.
Le millimètre, le truc. Et il est parti.
Je t'écoute religieusement, mon poulet.
Bon, allez, on t'embrasse. Bon match.
Pour le multiplex, est-ce que Lens est sous pression pour le match de demain soir, 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
RMC 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h02 sur RMC, la deuxième heure de Rotten sans flamme de ce vendredi soir avec Jean-Michel Larquet, avec Jean-Pierre Papin et Benoît Boutron. On est là jusqu'à 20h comme tous les soirs avec tous nos correspondants qui vont arriver dans un instant. C'est notre fameux multi avant de lancer cette 18e journée de championnat de Ligue 1. 19e, ouais. 19e qui commence ce soir avec le Auxerre Paris Saint-Germain en direct à la Baie des Champs. Ouais. On est, si vous avez raté la première heure, on vous le dit tous les jours, elle est déjà disponible en podcast. Vous pouvez aller télécharger le podcast et surtout vous abonner à la chaîne Rotten sans flamme. Vous avez accès à tout. Et on remercie Lionel Charbonnier aussi.
Il y avait beaucoup de choses dans cette première heure. Hein. Un très bon débat OM. Des infos autour de l'avenir de Bruno Genesio qui a posé sa démission hier après le match à Vigo refusé par Olivier Létan. Et donc l'analyse pertinente de Lionel Charbonnier sur le cas Lucas Chevalier. Énormément de choses à
récupérer.
Ouais, exactement. 5-6 mm.
Et ouais, c'est une histoire de poignet. Grande opération dès la semaine prochaine sur RMC dans Rotten sans flamme. On va vous lancer la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
L'Amérique, incroyable. Je veux la voir.
Jérôme va poser les pulls et les chemises de luxe pour enfiler le sifflet, le survêt de l'équipe de France.
C'est là que ça se passe.
Jérôme Rotten devient le sélectionneur et dresse sa liste des 26 bleus pour la Coupe du Monde tous les lundis et même régulièrement dans l'émission. Certains joueurs vont rentrer, d'autres vont sortir.
Ah, ça va évoluer.
Il y en a certains qu'on verra plus jamais en équipe de France.
Il y en a, ils sont mal parés. on a fait l'état des lieux. Hein. Là, il fallait faire quelque chose. J'ai vu un staff fatigué.
Il faut aider Didier.
Non, on peut pas y aller comme ça dans ces conditions-là. Donc là, c'est à partir de lundi, on va vous régaler. Vous aurez toutes les infos sur tous les internationaux, ceux qui sont susceptibles de faire la Coupe du Monde, ceux qui pensent. Qui sont sûrs de l'affaire. Mais attention! Attention! Eh oui!
J'ai hâte de vous entendre sur le milieu de terrain.
Attention, Tchouaméni!
Rotten sélectionneur dès lundi sur RMC. Vous réagissez au 32-16 sur WhatsApp.
Pièce maîtresse!
Sur les réseaux sociaux.
C'est la poutre!
À la poutre, ouais.
À 19h45.
Arrête de rire, toi, JPP.
On n'entend pas JPP.
C'est pas moi qui ris.
Ouais, c'est ça.
Ah oui, tu parles, tiens.
19h45, le quiz de Rotten sans flamme, tous contre Rotten, magnifique cadeau. Un an de café, saveur noisette, le temps des cerises. Pour participer. Non, 32-16 encore, 4, ou quiz
saveurs, les autres saveurs.
Ça va venir, t'inquiète pas. C'est la tradition du vendredi, c'est le multi-foot. C'est parti.
RMC, Rotten sans flamme.
Égalisation de Jean-Michel Larquet sur ce coup franc. Un coup franc, canon. Un but extraordinaire de pureté.
Papin,
et quel but.
Il est magistral. Quel but dans la grande collection de Jean-Pierre Papin.
Calou le centre, Rotten.
Oh non.
Et le troisième, la reprise magnifique dans l'instant. Et dans l'instant,
deuxième volée.
Il a fait tout. Vraiment, c'est un mouvement et une frappe technique super.
Merci Francky. Merci Francky. Il nous manque Franck Sauzet. On l'embrasse.
Magnifique compilation
de Jean-Pierre.
JP. On t'a fait briller quand même avec Thierry.
Les commentaires incroyables.
Je m'en souviens celui-là.
Ah ouais. Où va-t-il Basile? Quelle référence.
Où va-t-il Basile? On se demandait tous où il était.
Plaisir.
Où
il a écouté tous les buts dans sa carrière de Jérôme Rotten. Donc voilà, c'était un plaisir de réentendre tout ça. Voilà,
allez, ça sera vite. On prendra pas beaucoup de temps.
On n'a pas fait tous les buts de JPP en revanche. Non, ça prendrait trop.
C'est vrai qu'en termes de reprise de volée, avec Jean-Pierre, je suis mal barré.
Lançons la 19e journée de Ligue 1 avec les correspondants Jean Baumel dans le Nord. Salut Djibo.
Salut Benoît, salut Jérôme,
gros week-end, salut Jibo.
Et Udol en équipe de France.
Pourquoi pas, tu sauras lundi.
Tu sauras lundi.
Tu verras.
Je serai à l'écoute.
Déjà qu'il soit performant ce week-end.
Et voilà. Édouard G à Lyon, salut Édouard.
Bonjour à tous.
Salut Edouard.
Ravi de te retrouver. Et Maxime Tilliette sur la Côte d'Azur. Salut Maxime.
Salut les copains. Lui, bonsoir à tous. Il y aura des Niçois, des Monégasques dans l'équipe de France.
Maxime, il est dans le trou. Je vous le dis, entre Nice et Monaco, là, mon Dieu.
Il y a moins de la moitié de l'effectif de l'équipe de France. Chez vous,
Jérôme, il est capable de retenir Pogba, même s'il ne joue pas. On ne sait jamais. Ça peut arriver.
Et Corentin Tolisso, t'es capable?
Bonne question. Attention, il y aura des surprises.
Avant d'avoir les compos du match de ce soir, à 20h hein, d'ailleurs, entre Auxerre et le Paris Saint-Germain, c'est une demande du PSG acceptée par la Ligue de football professionnelle. Parlons du choc du week-end demain soir au Vélodrome. Marseille-Lens, le troisième face au leader, 8 points d'écart entre les deux équipes. 10 victoires consécutives pour Lens, la meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Djibo, parle-nous de l'état d'esprit des Lensois avant le match de demain.
Alors tout d'abord, info importante, confirmation, Samson Baydoun est forfait, il est pas dans le groupe, donc ça c'est quand même un élément important parce que Lens a la meilleure défense du championnat avec seulement 13 buts encaissés, donc il est pas dans le groupe. Par contre, retour Dodson Edouard qui n'a pas joué la semaine dernière contre la JOCR. Donc oui, est-ce que ce match est décisif pour le titre pour les Lensois? On va écouter Pierre Sage dans quelques instants, mais c'est vrai qu'on entend surtout à Lens, c'est qu'ils sont pas obligés de gagner demain soir. Peut-être qu'ils perdraient la tête du championnat, mais c'est plus Marseille qui est obligé de gagner dans son stade. S'ils font un nul, ça sera pas une catastrophe. S'ils gagnent, forcément, ça serait un résultat exceptionnel. Mais c'est vrai que on sent une certaine sérénité. La semaine dernière, ils ont pas fait un grand match. Ça tourneront. Donc c'est vrai qu'ils ont quand même pas de baraka, c'est un peu fort ce que je dis, mais ils sont quand même une sérénité qui se dégage. Et la question à Pierre Sage, est-ce que pour lui, ce match demain soir au Vélodrome est un match décisif pour le titre?
Écoutez, 19e journée, pas qu'il soit encore décisif pour le titre, sinon on aurait vraiment une avance très très confortable. Et dans tous les cas, il est décisif par rapport à la bataille qui se situe en haut du classement, sur l'avance qu'on a vis-à-vis d'eux. Aujourd'hui, on est en position de marquer un bon coup en étant performant là-bas, et à l'inverse, de ne pas remettre en cause tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant si toutefois le résultat n'était pas positif. Donc c'est un match qu'on va aborder sans pression et avec beaucoup de choses à gagner.
Alors une chose intéressante, c'est que depuis la remontée de Lens en 2020, il y a eu 5 matchs au Vélodrome entre Marseille et Lens en championnat. 4 victoires lensoises, une seule défaite.
Lens réussit bien au Vélodrome. Merci Dumont.
Pour la compo, il y aura peut-être un changement, passer à 4 plutôt qu'à d'être à 3 et 2 pistons. Voilà. On imagine peut-être Bulatovic, Thomasson et Sangaré au milieu de terrain et laisser Udol côté gauche avec Gaëlle.
Et Hudson Edouard titulaire à ton avis?
Oui, moi je pense qu'il va mettre Thauvin, Edouard devant. C'était léger ce qu'il avait la semaine dernière. Okay. Il a préféré pas prendre de risques. Et attention, Saïd en grande forme en ce moment.
Bon, merci Djibo. On débat de Lens dans un instant. Mais alerte compo à Auxerre pour ce match entre la GIA et le Paris Saint-Germain avec Aurélien Tiersin et Fred Joly. Bonsoir à vous deux.
Salut les amis. Bonsoir, bonsoir.
Alors, qu'est-ce que ça donne ces compositions d'équipe?
Alors, du côté du Paris Saint-Germain, on serait en 3-4-3 à première vue, avec donc Lucas Chevalier dans les cages, bien sûr. Zabarni, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez en charnière, donc à 3, avec des pistons Warren Zaïre-Emery sur le côté droit. Et a priori, Ibrahim Mbaye, de retour de la CAN avec le Sénégal, champion d'Afrique, qui serait déjà titulaire sur le côté gauche avec Vitinha et Mayulu dans l'axe, ou alors Mbaye dans l'axe, Mayulu à gauche. Et puis devant un trio, Barcola, Gonçalo Ramos, Grichak, Varadzrelia. Donc une équipe quand même métamorphosée pour Luis Enrique, avec beaucoup de joueurs offensifs.
Au milieu, c'est qui, tu as dit?
Il y a Vitinha, Mayulu, Mbaye et Zaïre-Emery. Donc on imagine Zaïre-Emery plutôt piston droit, et Mbaye avec sa vitesse probablement piston gauche. Mayulu,
ça m'étonnerait qu'il joue à 3 derrière quand même, hein. Même si dans l'animation on les connaît.
Mbaye arrière droit et Zaïre-Emery au milieu de terrain.
Hernandez
arrière gauche et un trio Vitinha, Mayulu.
Exactement, voilà, c'est ça. Je pense que Beraldo ou Hernandez vont finir arrière gauche, et après Hernandez, tu vas aligner 4. Tu vas aligner 4 défenseurs, et puis après, comme d'habitude dans l'animation, c'est vrai que ça soit le piston gauche, mais plus le piston droit si jamais, du moins l'arrière droit si jamais c'est Zaïre-Emery ou Mbaye. Bien sûr qu'eux, ils se transforment comme Hakimi le fait, tu vois, comme un milieu de terrain. Mais
là, on est quand même loin de l'équipe type du Paris Saint-Germain.
Ah oui, un petit peu. Ouais.
Devant, c'est pas mal quand même.
Devant, il y a un sacré quatuor.
Ah oui, mais enfin, tu as ni Doué ni.
Il y a Barcola, Ramos, Varane.
Tous les deux sur le banc, ouais.
Oui, ouais. Mais tu as ni Doué ni Dembélé. Au milieu, tu n'as pas de Neves, je crois.
Ouais, non, ça, il est blessé.
Ruiz est blessé.
Ruiz absent aussi.
Ruiz. Et derrière, tu n'as pas de Marquinhos, tu n'as pas de Nuno Mendes, tu n'as pas de Hakimi.
Mais il y a Ferrari.
Rassure-moi, Auxerre, ça devrait aller quand même.
La compo Auxerroise, Fred, alors.
Alors du côté d'Auxerre, on devrait normalement avoir un schéma en 5-3-2 avec évidemment Léon dans les buts. Si à droite, Mensa à gauche, Akpa, Senaya, Diomandé dans l'axe, on s'attendait à avoir une défense à 4 qui aurait pu se muter à 5. Et bien non, du côté de Christophe Pélissier, on a opté pour une défense à 5. Dans l'autre jeu, Danois et Amada qui fait sa première apparition au stade Abbé Deschamps. Et Lazouzi qui devrait être intercalé entre les deux récupérateurs et les deux attaquants que seront Sinayoko et Namasu.
Bon, merci les gars. 20h, le coup d'envoi de ce Auxerre PSG avec vous deux, avec Lionel Charbonnier en direct de l'Abbé Deschamps. Merci. À tout à l'heure. Parlons donc du RC Lens. Est-ce que Lens a la pression pour demain soir, Jérôme? Ils sont leaders. Un point d'avance seulement sur le PSG qui peut devenir leader provisoire en cas de victoire ce soir à Auxerre. Mais ils vont à Marseille qui, de son côté, a une énorme pression sur les épaules. Comment va aborder
la pression, ce match, cette question-là, pression ou pas, quand tu vas à l'Olympique de Marseille, quel que soit le classement, quelle que soit l'importance du match ou quoi que ce soit, tu sais que la pression, elle est particulière.
Mieux d'y aller dans ces circonstances-là.
Mais arrête, ce que je veux dire, Benoît, écoute-moi. Que tu sois Angers, Nantes, Lens, le Paris Saint-Germain, t'as une pression particulière, d'autant plus sur ces matchs au stade Vélodrome. Après, tu regardes le classement comme moi. Ils sont habitués, et c'est Pierre Sage qui l'a dit, la semaine dernière, il était content de récupérer sa première place. Tu vois, parce qu'il l'avait perdu, parce que le PSG avait à jouer avant. Il a récupéré sa première place. Ils sont habitués à être premiers. Donc, ils ont envie de continuer à exister, à être premiers.
La pression ou pas alors?
Mais la pression, elle existe dans tous les cas. Mais ça veut rien dire, en fait. J'ai beau te dire, ben la pression, elle est sur Marseille. Et ça, j'adore cette phrase-là. Elle est sur l'adversaire. Tu sais, nous, on y va, tranquille, peinard, en claquette. Et puis, si on prend 3-0, c'est pas grave. Non, si. Il y a les résultats, quelle que soit la défaite, ça sera problématique pour Lens parce que la dynamique, elle sera cassée. Il faudra rebondir derrière. Ils ont le droit de perdre au Vélodrome, je te l'ai dit, parce que pour moi, en effet, quand tu vois la force financière des deux club, il n'y a pas photo et l'OM doit faire tourner le compteur. S'ils ne le font pas, Lens t'en fait pas, ils sauront en profiter. Parce qu'ils sont performants, parce qu'ils sont solides, ils ne sont pas là par hasard et que ça ne sera pas facile pour l'Olympique de Marseille parce que ce collectif, il est surprenant. Après, ces matchs-là sont particuliers parce que je pense que les joueurs qui doivent être décisifs du côté du RC Lens devront évoluer à un niveau encore meilleur que d'habitude, plus fort que d'habitude. Ils l'ont pas réussi quand ils sont venus au Parc des Princes. J'ai vu le match, j'ai été très déçu. Très déçu de la prestation des Lensois ce soir-là parce que j'estime que
c'est en tout début de saison aussi.
Oui, mais sauf que le PSG, le PSG était prenable et il le montre. Le PSG, c'est jamais facile. Facile, quel que soit l'adversaire depuis le début de saison. Et que Lens, ils se sont un peu mis à genoux trop facilement au Parc des Princes. Là, j'imagine que la confiance et le niveau de certains, et c'est bien supérieur à il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc, ils vont élever encore leur niveau. Et s'ils élèvent leur niveau, je pense qu'en effet, ils peuvent encore faire tourner le compteur au stade Vélodrome.
Jean-Michel, est-ce qu'il y a de la pression sur Lens?
Arrête-moi avec cette pression.
Ah, merci.
J'en peux plus. Non, mais d'abord, quand tu es premier et que tu es premier après plus de la moitié du championnat, allez, à la moitié du championnat, tu as qu'une envie. Alors, je ne sais pas comment tu appelles ça, la pression ou l'envie de rester premier, ou la pression de rester premier. En tout cas, moi, c'est l'envie que j'imagine pour l'envie et le prestige pour Pierre Sage et pour les Lensois, c'est de rester premier. Et pour rester premier, il faut faire un match meilleur que celui qu'ils ont fait la dernière fois à domicile, parce qu'ils ont été laborieux, on va dire ça. Marseille, même s'ils sont pour l'instant à 8 points de Lens, Marseille reste quand même un adversaire prestigieux. Et gagner à Marseille, c'est, même si c'est dans les habitudes du Racing Club de Lens, bah c'est pas prévu normalement
par le club au début de saison.
Par la logique. Ah oui. Par la logique. Donc eux, ils ont envie de rester premier et de faire un bon match. De l'autre côté, tu parles de Marseille, tu as une équipe qui est pour l'instant morose. Voilà, elle est triste ou nette. Elle pense être au niveau des meilleurs un match contre le Paris Saint-Germain. Et puis, ça retombe comme une vulgaire béchamel. Voilà, et donc, les Marseillais sont dans l'obligation, non, même pas de faire match nul, Benoît.
Ah bah non, pas de faire match nul. Il faut gagner à l'OM, bien sûr. Mais c'est ça la différence.
Ils sont dans l'obligation.
Ah, sûr, pour Lens à nul, c'est pas mal, hein.
Bah oui.
Comment?
Lens à nul, c'est pas mal, c'est pas.
Ah oui, oui, non, mais je te parle de
Marseille. C'est Marseille qui est
obligé de gagner. Bah oui. Obligé de gagner. Donc. Eux, ils ont, je sais pas s'ils appellent ça, ils ont, moi ce que je sais, c'est qu'ils ont le couteau sous la gorge, hein, ou l'épée de Damoclès juste au-dessus.
Donc la pression est plus forte sur l'OM que sur Lens, en fait, non, c'est eux-mêmes.
C'est pas, appelle-moi moi la pression. L'obligation de faire un résultat, c'est l'OM qui l'a.
Mmh. Voilà, là on est d'accord. JPP, est-ce qu'il y a de la pression sur les Lensois? Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ouais, je suis un peu comme Jean-Michel, pression. Je pense que dans ce genre de match, quand tu vas jouer à Marseille, obligatoirement tu dois être très très motivé. Les spirales sont pas tout à fait les mêmes. Les Lensois restent sur 10 victoires. Je pense que quand on est 10 victoires, qu'on est premier, on a juste envie de venir jouer au Vélodrome et d'essayer d'être premier encore, parce que je pense que dans ce club-là, il y a cette culture de la gagne aussi qui fait que quand on veut être champion, ben on fait tout pour être champion. Marseille a l'obligation de gagner ça, quoi qu'il arrive. Il y a un paramètre qui va être important aussi, c'est le paramètre physique, parce que je pense que le match de Liverpool a dû laisser quand même quelques plumes.
Oui, bien sûr.
Pierre Sage était là, ça, il s'en est rendu compte.
On l'a entendu avec lui. T'es dithyrambique sur les supporters de l'OM.
Bah oui, il a remercié le club aussi de lui avoir permis d'assister à ce match.
C'est normal.
C'est pas classe, Jérôme? Quel rabat joueur.
Mais c'est normal.
Oui, c'est normal. Ouais,
ah bon, d'accord. Non, ils auraient dû lui fermer les portes du stade, quoi.
Non, mais de parler, de dire c'est magnifique, c'est ceci, j'ai l'impression qu'il découvrait le stade Vélodrome.
Ah, d'accord. En tout cas, ils vont venir à Marseille sans aucune pression, avec l'envie de faire bien, point.
Voilà.
Bon.
Mais bon, la question est de savoir, est-ce que vous pensez pas que le matin, en se rasant de temps en temps, le dénommé Pierre Sage s'imagine pas être champion de France? Est-ce que vous pensez
certainement.
Est-ce que ça lui traverse
le chemin
pas
est long encore. Le chemin est long encore.
Je sais pas, mais bon, tu te rases pas tous les jours aussi.
Ça a changé. Avant, oui. À ton époque, oui, Jean-Michel, mais on se rase plus tous les jours.
Mangeant, il y pense.
Ouais, c'est possible. Voilà, un petit pronostic d'ailleurs, un tour de table. Pronostic sur le match de demain soir. Jérôme, tu vois quoi entre Marseille et Lens? C'est un pronostic à donner?
Un pronostic à donner. Franchement, je sais pas ce que ça va donner, ce match-là. Moi, je vois un
match nul.
Mouillez-vous là, oh là là.
Franchement,
un match nul.
Si Lens gagne au Vélodrome, dans l'état de l'Olympique de Marseille. Déjà il y aura la crise à Marseille, mais il va falloir que le PSG se méfie fortement du RC Lens.
Bon, c'est pas un pronostic, mais en tout cas.
Mais c'est ça.
Parisien commence à. Trembler.
Pourquoi je te dis ça, Jean-Michel? C'est parce que il y a un Lens Paris Saint-Germain qui se profile.
Oui.
C'est au mois de mars.
Il est tard. Le derby avant quand même. Attention.
Oui.
Il est quand le lance?
Ah, il est tard, il est le 12 avril.
En avril.
Ah ouais, il est tard quand même.
Ouais. Tard, bon allez, le pronostic de Jean-Michel, tu vois quoi toi?
Match nul,
et toi, JPP?
2-1 à l'OM.
Ah oui, victoire de l'OM. Ça m'aurait étonné.
Mais ils n'ont pas le choix. Moi je suis désolé, mais bon.
Non mais moi j'irais plus sur comme Jean-Pierre. Okay. J'irais plus sur une victoire de Marseille. La logique voudrait une victoire de Marseille. Maintenant, s'ils ne gagnent pas, je serai extrêmement déçu.
Oui, certainement.
Depuis quand je me dis
Marseille? Il a un culot, ce mec. Mais c'est...
Ah, je serai extrêmement déçu. Et franchement, j'aurais pas hâte à être à lundi. Jean-Michel et Jean-Pierre, j'aurais pas hâte à être à lundi si Marseille venait à s'incliner.
Allez, 19h20 sur RMC. Le tour des stades, messieurs. Les infos Ligue 1 qui concernent le week-end.
Après, il y a Bruges-Marseille.
Djibo, rappelons, l'info RMC Sport qui est tombée il y a moins d'une heure. Donc, Lille, il y a eu des remous en interne. La démission proposée par Bruno Genesio est refusée par Olivier Létang.
Oui, tout à fait. Il avait donné son envie de départ après la 4e défaite hier, toute compétition confondue de suite. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse déception sur l'attitude de certains joueurs, notamment au niveau offensif, hein, un peu comme Olivier Létang. Là-dessus, ils sont d'accord. Et puis on est dans une impasse offensive hein, pour Bruno Genesio. Seulement 2 buts sur les 4 derniers matchs. Il y a des blessés, certes, et des absents, mais on sent aussi une usure de la part du coach de Lille.
Incroyable, Maxime Tilliette. Nice a gagné un match de Coupe d'Europe. C'est arrivé. Oui. Vous l'aurez vécu sur RMC, c'était hier soir.
Allez, fais Puel.
L'événement football de ce début d'année 2026. Hein, on peut le dire hein, très clairement. La série s'arrête à 17 matchs sans victoire en Coupe d'Europe pour Nice. Avec une équipe pourtant qui était très remaniée hein, par Claude Puel, par les absences également. Mais Claude Puel avait décidé tout de même de mettre quelques cadres au repos. Et puis il y en a certains donc, qui ont marqué des points. Van Hout qui joue un peu moins d'ailleurs depuis l'arrivée de Puel. Gouveia qui, avec Francaise, jouait beaucoup plus bas sur le terrain. Et puis voilà, donc globalement, dans les têtes et l'état d'esprit du club, ça va être un vrai bol d'air. Parce que, mis à part en Coupe de France, bah, la dernière victoire dans le temps réglementaire, elle remontait à fin octobre, c'était face à Lille. Oh, donc ça peut servir peut-être un peu de déclic dans les têtes.
On parlera de Monaco avec toi dans un instant. Et puis Edouard, avant de parler de l'Olympique Lyonnais, tu voulais nous dire un mot de la folie Hendrick. Ça enflamme les réseaux sociaux de l'Olympique Lyonnais. Hein.
Ouais, ou une individualité qui s'intègre à merveille dans le collectif. Je vous explique. Alors en deux temps, Hendrick à son arrivée, lui qui a 5 fois plus de followers que l'OL, hein, 15 millions contre 3 pour le club, sur Instagram uniquement, 60 millions de vues pour ses 3 premières vidéos de son arrivée, du jamais vu. Et depuis son arrivée, c'est 1 million de followers en plus, tout réseau confondu pour l'OL. Et il se murmure aussi que le diffuseur de la Ligue 1 au Brésil aurait doublé ses abonnés. Voilà pour la folie Hendrick. Mais du côté de la communication et surtout du collectif des directeurs techniques, Mathieu Louis-Jean avec Michael Gerlinger, on a décidé un petit peu de fondre cette individualité dans le collectif. Du coup, désormais, il n'y a plus de vidéos du club autour de lui uniquement, place au collectif, même si bien évidemment ça apporte du marketing en plus. Et ça, Michael Gerlinger, le directeur général, nous en avait parlé lors de la présentation d'Hendrick il y a quelques jours.
Et Lyon, on en parle dans un instant dans le multiplex de Rotten sans flamme sur RMC. Est-ce que l'OL est le meilleur club de Ligue 1 actuellement? Un grand merci à Jean Baumel qui nous laisse, qui va terminer son périple, qui rentre de Vigo.
Bon courage,
salut les amis.
Et dans un instant, donc Lyon et Monaco au programme. On est là jusqu'à 20h, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h28 sur RMC, on est là, on est bien. La dernière demi-heure de Rotten sans flamme de ce vendredi soir. On se régale avec Jean-Michel Larquet, avec Jean-Pierre Papin et avec Benoît Boutron. On est toujours avec nos correspondants, à part Djibo qui a continué son périple. Ah oui, il rentre de Vigo. Il a mis du temps.
Vigo, Lille, c'est pas à côté.
Ah oui, les tapas. Il les a bien tapés, les tapas. Ils ont dû morfler.
Les meilleurs sont restés. Edouard G est là, Maxime Tilliette. Aurélien Tiersin à la Baie des Champs aussi.
Aurélien, ouais.
Parce que ce soir à 20h, il y a donc ce Auxerre Paris Saint-Germain.
Aurélien nous a inventé une tactique.
Alors justement, Aurélien, est-ce que tu as évolué dans ta réflexion tactique sur la Coupe parisienne
ce soir? Tiens.
Mais en effet, j'ai dit une belle saucisse. On va pas se mentir, en posant ça à plat. Après, j'ai reçu les compos vraiment 10 secondes avant de vous parler.
Ah, mais c'est sûr, c'est pas facile.
Si j'étais doué, ça se saurait aussi, malheureusement. Ouais. Donc, on aurait Chevalier. On a Chevalier dans les cages. Beraldo Zabarni dans l'axe. Zaïre Emery arrière droit. Lucas Hernandez arrière gauche. Un milieu de terrain. Ben voilà. Ibrahim Baye de retour de la CAN. Vitinha Mayulu. Ça semble beaucoup plus logique. Et puis devant, Gonçalo Ramos en pointe. Gvichak Varadzreli à sa gauche. Et Bradley Barcola à sa droite.
Et voilà.
C'est bien. Ben,
on donc est vous plus pensez classique. Kemba il va jouer dans le milieu de terrain?
Oui.
Oui. Ok.
Après, je vais te dire, c'est une belle équipe du Paris Saint-Germain, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il y a des choses à faire pour la JOCR au milieu de terrain.
Ah, bah voilà. Bon, on suivra ça. 20h
les performances de Mayulu. Mbaye a été très intéressant. Parce que
un peu dans le pif, là.
C'est pas moi qui l'ai dans le pif, je regarde les matchs, Jean-Michel. Ouais, après, s'il n'est pas bon, quand il sera bon, je dirais qu'il est bon. Quand il est pas,
tu l'as dit qu'il était bon l'an passé.
Et quand il est pas bon, il est pas bon. Alors. Et Zaïre Emery, je disais que c'était pas un milieu de terrain et qu'il progressait pas au milieu. Depuis qu'il joue à droite, il est bon.
Et même au milieu de terrain, quand il rejoue au milieu de terrain, il est bon.
Ouais, mais je le préfère à droite quand même.
Alors, l'autre équipe en forme actuellement, c'est donc l'Olympique Lyonnais, Edouard G. L'OL est quatrième de Ligue 1, à seulement 2 points du podium.
Il est en forme de
leader de Ligue Europa. Edouard aussi s'est arrêté. Donc, déplacement à Metz dimanche à 17h15. Tu as mis des chiffres sur cette bonne série lyonnaise et cette belle saison pour l'instant, Edouard.
Ouais, ça peut faire mal à la tête à Djibo. C'est pour ça qu'il est parti, Maxime, parce que depuis le 11 décembre dernier, il y a 7 semaines vas-y, de match, 7 matchs, 7 victoires.
Et voilà, crac.
2 en Coupe de France, notamment à Lille, 2 en Europa League face à Lendemain, les Aigles, Go Eagle et à Berne hier soir, et puis 3 en Ligue 1, au Havre, à Brest et puis à Monaco. Voilà. Et donc tout roule pour l'OL, qualifié pour les 8e de finale de Coupe de France, de l'Europa League avec le rapproché au classement. Alors messieurs, quels sont les secrets de cette bonne forme? Hier soir, j'ai croisé Corentin Tolisso, le capitaine en zone mixte à Berne, et on entend beaucoup les mots de travail, de tactique, de relationnel avec Paulo Fonseca. Et ben voilà comment le capitaine résume un peu ce que l'OL dans lequel est rentré donc dans un cercle totalement vertueux.
On gagne quand on prend de la confiance match après match, bah commence le match suivant justement avec plus de confiance et plus de certitude. Donc voilà, il faut qu'on continue. On a 7 victoires d'affilée, il faut pas que ça s'arrête. On continue ce qu'on fait de bien là en championnat et depuis le début de 2026. Surtout, il faut rester humble. Pour moi, c'est la priorité. Il faut pas qu'on se prenne pour d'autres.
Voilà, humilité des arrivants aussi avec des jeunes. Alors là, c'est plus compréhensif qu'ils soient humbles, comme Khalis Mera, qui fait son chemin idyllique dans un groupe, et il le dit, solidaire.
Même quand on a des petits coups de mou, on reste solide. Je pense qu'il y a quelques années, là, ça, on aurait peut-être traqué. Mais là, je pense qu'on est vraiment tous soudés et on a tous envie de se battre pour le club, pour l'équipe. On a un très beau staff, des dirigeants qu'on fait le boulot l'été dernier. Donc maintenant, on doit se battre pour eux, pour nos supporters et j'espère que ça va aller.
Voilà, aussi unité, hein, il l'a dit, des dirigeants Michael Gerlinger, Mathieu Louis-Jean et Daniel Congré. Et puis aussi, à noter, l'idylle avec les supporters. Hein, 1634 fans hier à Berne et ils seront plus de 1000 encore à Metz. C'est dire s'il y a quand même quelque chose qui se passe entre l'OL et ses supporters.
Est-ce que l'OL est le meilleur club de Ligue 1 en ce moment, Jérôme? T'aimes bien ce qui se passe
ouais,
à Lyon.
Ouais, j'aime bien, mais j'aime bien la dynamique. Hein. On en parle souvent avec Edouard, mais j'aime bien la dynamique à Lyon, ce qu'a créé Fonseca, et puis surtout de remettre en avant les valeurs du club. Je trouve que Tolisso est le vrai repère pour ce groupe et il l'emmène bien parce que c'est un joueur de top niveau qui est très régulier et qui aide les plus jeunes à s'intégrer. Et puis il y a des plus jeunes qui nous ont surpris parce qu'ils ont vite progressé et ça veut dire que le climat il est bon, que l'entraîneur est vraiment très performant. J'aime ce qu'il met en place, j'aime la façon de dégager l'envie qu'il donne à ses joueurs, il est entraînant. Et puis derrière les résultats ils sont là. Qu'est-ce que tu veux dire?
C'est plus fort que Lens en ce moment pour toi?
Mais écoute, c'est différent. Non, mais Lens, franchement, être premier championnat, ils ont que ça à jouer. Mais franchement, c'est magnifique. Et je dirais pas que c'est plus dur de faire ce que fait Fonseca à Lyon que Sage à Lens, parce que les deux sont ultra ultra performants. Mais ce qui est sûr, c'est que Lyon, avec la Coupe d'Europe, parce que il faut mettre ça aussi en avant, avec les blessures qui sont arrivées dans le secteur offensif, on pouvait en parler. Le meilleur joueur, c'était Fofana, ils l'ont gardé, ils se blessent. Derrière, il n'y avait plus personne. Là, aujourd'hui, ils arrivent. Ils ont réussi à quand même à faire le dos rond et avoir des résultats, avec renforcés par l'arrivée d'Hendrick, avec des joueurs qui ont progressé. Bah, franchement, Lyon, c'est facile top 4 aujourd'hui, voire top 3.
Ce que t'as dit hier, c'est ça, c'est que toi, tu les vois candidats, podium en fin de saison. Quoi.
Tu sais, on parlait du match crucial de Marseille en termes de résultats. Si Marseille ne gagne pas ce match contre Lens et que Lyon arrive à dépasser l'Olympique de Marseille, je peux te dire qu'il va falloir aller les chercher, les Lyonnais.
Jean-Michel, vas-y.
Bah, en être là, après tout ce qu'ils ont connu depuis ces derniers mois pour les Lyonnais, chapeau.
Ah oui.
Chapeau, parce que ils ont été ballottés sportivement, ils ont été ballottés financièrement, on savait plus où ils en étaient. Je pense que eux-mêmes, et moi chapeau à la présidente, chapeau à Fonseca et à son staff d'avoir réussi à remettre en selle des joueurs qui étaient un petit peu partis aux oubliettes. Je pense que le Tolisso de cette saison, il y a des années qu'on l'avait pas vu, par exemple, et il s'est transformé en meneur de jeu, il s'est transformé en buteur. Franchement, alors être la meilleure, c'est s'ils étaient la meilleure, Benoît, il serait premier en championnat.
On fait plus de débat alors.
Non, mais s'ils étaient meilleurs, mais être, en être là où ils en sont aujourd'hui, c'est un véritable, ça c'est un exploit, c'est ouais. une vraie révélation. Ouais. Alors on va les mettre tous dans le même sac ou dans le même panier. On va pas dissocier les entraîneurs, les joueurs et les dirigeants, mais c'est une je pense que du côté de Lyon, personne ne s'attendait à cette embellie.
JPP, t'es convaincu toi aussi, t'aimes bien voir ce que réalise l'OL?
Ouais, ce qu'il propose, je pense que c'est très intéressant, c'est une équipe bien équilibrée, beaucoup d'envie, ça court énormément, ça propose du jeu. Il y a un vrai collectif. De plus, il y a des joueurs qui sont arrivés avec quand même un nom intéressant comme Hendrix, qui va certainement leur amener beaucoup plus que le nom, parce que sur le terrain quand même c'est quand même un drôle de joueur. Et puis moi j'adore ce coach Fonseca qui fait des choses. Déjà à Lille c'était bien. Là il est arrivé par le couac avec l'arbitre où il a payé cher, mais il a payé, il a rien dit, il est resté dans sa tribune. Ouais. Mais sincèrement, ce qu'il a montré à Lyon, avec, comme le disait très justement Jean-Michel, avec un club qui a été quand même mis à mal la saison passée, là, il y a eu beaucoup de sérénité, il n'y avait pas eu trop de bruit, et c'est sur le terrain qu'ils ont montré qu'ils avaient les qualités requises pour être là, quoi, tout simplement.
Lyon à Metz, dimanche à 17h15, on termine par l'AS Monaco, Max Tilliet.
Avec un nouvel entraîneur du côté de Metz, oui.
Ah oui, nouvel entraîneur.
Ah, Benoît Tavenot,
l'ancien de Bastia. Est-ce qu'il y aura un nouvel entraîneur encore à Monaco? C'est toute la question. A priori, non, Max Tilliet, nouvelle conférence de presse de Pocognoli, après la plus grosse défaite de l'histoire de Monaco en Coupe d'Europe à Madrid, 6-1. C'était mardi. Qu'est-ce qui s'est dit en conf de presse alors, Max?
Qui est resté fidèle à lui-même, Sébastien Pocognoli, toujours aussi sûr de lui, comme déjà après cette déroute 6-1 à Madrid. Hein, c'était déjà la 8e défaite pour lui en 18 matchs depuis son arrivée à Monaco. Et ben Sébastien Pocognoli affirme encore et toujours qu'il n'aurait rien changé de ce qu'il a fait depuis le début de sa signature. Et d'ailleurs, il est revenu sur cette déclaration qui, selon lui, a été mal interprétée.
Je peux comprendre, mais je suis très, très aligné par rapport à mes convictions. Et c'est un alignement bienveillant et avec beaucoup de réflexion. Je pense que j'aurais refait certaines choses de la même manière et je reste persuadé qu'on fait le maximum. Je ne veux pas utiliser toutes les petites choses qui font que la situation est difficile, mais on ne m'enlèvera pas la confiance ou le côté positif que j'ai en moi. Je pense que c'est une qualité aussi.
Et s'il est toujours en poste, c'est aussi parce qu'à la Turbie, on considère qu'il est un peu tributaire de pas mal d'aspects. La prépa qui a été ratée, les joueurs à l'infirmerie, ou ceux qui sont trop justes physiquement, pour ne parler que d'eux. Et voilà, il n'a non plus pas choisi le moindre joueur de ce groupe. Donc voilà, ces derniers jours dans les discussions, il était plus question d'état d'esprit, de solidarité, du niveau des cadres. Il y a eu des réunions, notamment une assez longue mercredi matin au lendemain de la défaite à Madrid. Et voilà, là, Sébastien Pocognoli va pouvoir compter sur le retour de deux soldats, les vainqueurs de la CAN, les Sénégalais. Lamine Camara, qui s'est entraîné aujourd'hui d'ailleurs, et Crépin Diata, qui lui en revanche est encore un peu malade et qu'on ne devrait pas revoir sur les terrains avant le week-end prochain.
J'ai bien entendu, donc, d'après ce que j'ai entendu, l'entraîneur de l'AS Monaco, qui cumule combien de défaites en
18 matchs, 44%.
Il ne se remet pas en question.
Il ne faut rien changer.
Il faut rien changer. C'est bien ce qu'il a dit.
Il se remettre en question, mais qu'il changerait pas de.
Il changerait pas.
Donc, s'il change rien, il se remet pas en question. Enfin, ou il se remet en question, ou il change quelque chose.
Il est droit dans ses bottes.
Il change rien.
Voilà. Droit dans ses bottes.
Il se remet en question, mais en disant qu'il avait pas tort.
Voilà.
Celui qui a dit ça droit dans ses bottes, il a mal terminé. Ça s'est pas bien passé.
On en a déjà parlé cette semaine. Rien de
voir
à l'AS Monaco, Jérôme. JPP, qu'est-ce que tu penses toi, de la situation à l'ASM? Est-ce que Pocognoli peut continuer comme ça avec ses méthodes, ou est-ce qu'il faudra de nouveau changer d'entraîneur d'après toi?
De toute façon, c'est le prochain match qui va donner un petit peu la tendance. De toute façon, je pense que tu peux pas faire.
Et derrière, il y a la réception de la Juve. Hein. Attention.
Ouais, mais tu peux pas faire le pire que t'as fait à Madrid. Tu reçois la Juve qui aussi joue sa peau en Coupe d'Europe. Et puis en championnat, ça va pas bien. Donc, à un moment, on va se poser les bonnes questions, parce qu'on a beau avoir toute la meilleure volonté du monde, quelquefois, quand ça passe pas, ça passe pas.
Et voilà. Monaco, donc, le match au Havre demain à 19h sur RMC.
Qu'est-ce
qu'il y a à Monaco?
J'ai passé un coup de gueule hier sur Monaco, même en début de semaine et tout ça. Mais moi, je peux pas entendre ce qu'a dit Pocognoli. dire qu'ils le disent après en conf de presse après le match à Madrid, ouais, pour essayer de se trouver des circonstances atténuantes et puis surtout de mettre les critiques de côté. Mais après, à froid, non mais rassurez-moi, il voit les matchs comme nous, où il les voit pas les matchs, que quand tu prends but sur but contre des équipes moyennes de Ligue 1, ouais, t'as pas besoin d'avoir des Camara ou des Diata qui à l'arrivée, ça, Diata sûr, ils en ça, voulaient pas sûr, pour gagner les matchs, au stade Louis II, t'as perdu contre le Paris FC, t'as pris une branlée Lorient, contre Lorient, t'as pris une claque contre Lens, t'en as pris 4. Non mais il faut combien de claques, t'as pris une volée à Madrid, t'as gagné un match de Coupe de France chez toi, chez les Boutrons à Orléans. À l'arrache.
Alors
tu t'es bougé, ouais. Non mais tu devais même pas le gagner celui-là. Donc non mais et lui il change rien en fait.
Exactement.
Non mais à Marseille ils font un bon match.
Dans ses bottes.
Droit dans ses bottes.
Et à Marseille ils font
un des meilleurs matchs qu'ils ont fait.
Ils font un bon match à Marseille, mais le résultat c'était quoi à Marseille?
Défaite.
Et d'accord. Voilà, ok.
Bon. Merci Maxime.
C'était une défaite encourageante.
Merci Maxime. Merci Edouard G d'avoir été là.
Et
bisous à Hendrix.
Salut Doudou. Je précise rapidement que je vous rappelle l'info RMC Sport à Lille et Genesio qui a demandé à quitter le club après la défaite face au Celta. Olivier Létang qui a refusé. Sachez que le LOSC vient de démentir ces informations sur son site par un communiqué de presse, mais RMC Sport maintient ces informations. Donc on vous confirme nos informations qui sont signées.
J'aime.
Genesio a bien demandé
la guerre. Eh oui, Olive, on a les infos, Olive. Monsieur Létang, on les a, les infos.
Allez, dans un instant, tous contre Roten, le quiz de Roten sans flamme. A tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
9h46 sur RMC, on est là, on est bien. On finit les 2 heures de ce vendredi soir. Après, on vous laisse tranquille tout le week-end. Vous allez manger du foot, regarder du foot et on analysera tout ça à partir de lundi, comme tous les lundis. On est de retour dans Roten sans flamme du lundi au vendredi. Et là, ce soir, on finit l'émission, comme toutes les émissions, avec le quiz de Louis Gervier, avec Jean-Michel Larquet et Jean-Pierre Papin qui vont former une belle équipe. Benoît Boutron sera l'arbitre de tout ça et 2 auditeurs avec un super cadeau à vous faire gagner.
Allez, on y va.
RMC, tous contre Roten.
Salut Louis Gervier.
Salut l'équipe.
Magnifique cadeau.
Salut Louis.
Un an de café saveur noisette, le temps des cerises, soit pour Pierre, soit pour Damien. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
On a 2 supporters de l'OM. Est-ce qu'il y en a un qui se dévoue, Damien, pour jouer avec Jérôme?
Salut les gars.
Moi, JPP.
Qui a dit moi? C'est toi Damien qui a dit moi?
Pierre.
Allez Pierre.
Allez Pierre. Pierre avec Jérôme, Damien avec la légende Jean-Pierre Papin.
Pour Pierre.
Excellent. Je l'ai. Allez, c'est parti.
Eh bien, on va faire un thème sur l'info RMC Sport.
Ah ouais.
Ah oui. Ah oui.
Pour les démissions. Hawkins, hein.
Sur les démissions. Pas. Non, sur Bruno Genesio.
Bravo Fabulous. Ah.
Fabulous Fab. On va commencer avec une question flash donc sur Bruno Genesio. Dans quel club Adrien Truffert, entraîné au Stade Rennais par Bruno Genesio, a-t-il été transféré cet été?
Ah, je l'ai.
Truffert.
Où joue Truffert?
Voilà. Truffier. Truffert, il joue déjà celui-là.
Truffert. Oh, JPP, bravo.
Magnifique. Bournemouth.
Il joue JPP?
Bournemouth. À Bournemouth.
Bravo, 1-0.
Bournemouth.
Bravo.
Allez, bravo, question Larqué. Ah.
26-15,
quand
qui
n'en
veut pour les jeunes.
Qui n'en veut? Gerbier, t'es un truand. Quel joueur entré dans l'histoire du PSG a été coéquipier de Bruno Genesio au début des années 90?
Pas mal.
N'Goti. Oh là là.
Oh, c'est allé vite là.
Oh là là. Joli Bruno N'Goti.
Très fort, il est fort, il est fort, il est fort.
Ah bah là, légende du PSG.
C'est partout, c'est tout. Hein.
Ouais, ouais, bravo, JPP, voilà.
Allez,
quelle jalouse.
On enchaîne question flash. Quel joueur entraîné?
Oh, mais c'est pas Genesio, c'est les joueurs.
Bah non, mais oui, c'est
les joueurs entraînés par Genesio.
Oh, il râle tout le temps.
Oh là. Quel joueur entraîné par.
Salut. Allez, vas-y.
Quel joueur entraîné par Genesio devrait voir son genou être enterré au Panthéon?
Alors son genou enterré au Panthéon, au pantalon, qu'est-ce que c'est? Attends, c'est quoi le jeu de mots là?
Où est-ce c'est un, non, il y a pas de jeu de mots. C'est plus que c'est un genou qui nous a fait gagner une Coupe du Monde.
L'histoire de genou.
Tolisso. Non.
Ah ben non, le genou qui a marqué, c'est.
Réfléchis-y. Bah voilà. Casse la démarche. 2-1 pour Jérôme.
Il a sacrifié un genou pour la patrie quand. D'accord. Même, les amis. Alors, chers auditeurs. Ah bah oui, il faut aller le chercher. Oui. Sinon, j'aurais pu dire, je sais pas moi, dans quel club a entraîné Bruno Genesio.
Pierre face à Damien.
Pierre, Damien, dans quel pays Bruno Genesio a-t-il entraîné 18 mois?
Pas mal.
La France. Non.
Oui, oui, d'accord.
Ah bah oui, ça plus que 18 mois, oui. Mais le seul pays étranger, disons.
Très loin.
Un choix sportif.
Ouais. Tunisie.
Non, trop près.
Arabie Saoudite.
Non. Trop près. Ah,
pas loin, pas loin.
Qatar.
Trop non, près. Encore plus loin encore.
Turquie.
Non, plus loin, mais vraiment non, plus loin.
Long, très, très
long
loin.
Courrier.
Australie.
Ah, trop loin. Ah, tu remontes, attends.
Ah, je crois que tu l'as dit.
Qui l'a dit?
Chine.
Oui, oui, qui a dit Chine?
Pierre.
Ah, au bout d'un moment, j'ai tous les pays.
C'est bah, Pierre.
Oui, c'est Pierre.
Non, c'est Pierre ou c'est Damien qui l'a dit?
Ah, c'est Pierre. Oui.
Ah ouais. Oh, c'est Pierre et ça fait 3-1 pour affaire, Jérôme.
C'est pas clair.
Il y en a qui ment.
Question pour le patron.
Salut, c'est Jérôme Rotten.
Oui,
RMC. Ah. La question pour le patron.
Ouais, bah, les questions allez, pour Jean-Mi, le patron, allez, je peux te dire. Quel invité de Rotten sans flamme cette semaine a-t-il entraîné Bruno Genesio?
Hervé Renard.
Non.
Un invité?
Un petit coup de téléphone, un petit allô, Jérôme.
Qui a entraîné Genesio?
Qui a été entraîné par Genesio.
Ah, entraîné par Genesio.
Ah bah je l'ai. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine?
Ah allez, non, allez, non. Allez. Ah, je pensais pas vous mettre dans
Valbona.
Oui, ah.
Oh,
ouais,
simultané là.
Ah ouais, simultané.
On a Mathieu Valbuena.
Ah, je crois que j'ai
dit. Mais je l'ai dit, ça fait un quart d'heure, je l'ai dit.
Ah, c'est vrai?
Bien sûr.
Ah bon?
Ah bon?
Ah la routine.
Il y avait 3-2 de toute
façon. T'étais coupé, Jean-Pierre.
La bonne réponse,
bah oui.
3 points.
Combien?
3 points.
Aïe, aïe, aïe.
Combien
de matchs entre Pierre et Damien, entre Jérôme et entre le reste
de nous? Je peux pas perdre contre cette équipe. Là.
Bon, allez.
Impossible.
On va y aller avec une question très con.
Ah. Qu'est-ce que vous êtes con? Qu'est-ce que vous êtes con alors?
RMC.
Et quand t'es con, pas d'un même temps, ouais, et votre première année, tu risques d'être con.
Ah, on embrasse pour
alors, celle-là, écoutez bien parce que vraiment, elle est débile.
Ah bah ouais.
Quel joueur entraîné par Genesio devient de la nourriture à bétail quand il met des chaussures montantes?
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est con.
Quoi?
Chaussures montantes. Chaussures montantes.
Des trucs à béton, à bétail.
Une botte qui.
Badless.
Une botte pour.
Paille, Stéphane Paille?
Non.
Non, c'est pas mal ça, Stéphane
Paille. Ah, je l'ai. Bah oui, quand même.
Botte.
Non, on triche pas.
Botte.
Maïs, blé.
Vous êtes prêt? Je donne son prénom.
Ah non, attends. C'est trop facile le prénom.
Un indice.
Il joue au Brésil.
Botman.
Il joue au Brésil.
Ah bon?
Ouais.
Bot.
Il a joué à Manchester aussi.
Ouais.
Mais merde.
Ouais.
C'était de paille.
Oui.
Ah oh, putain. Oh là là, mais moi qui ai dit paille. Oh là 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 là.
Allez hop, on rentre à la maison.
Et de Pierre qui remporte ce magnifique cadeau.
Une petite soupe,
jouez sur
RMC
avec le temps des cerises. L'expérience d'un café noisette aux saveurs raffinées, aux arômes intenses et irrésistiblement gourmands. Rendez-vous sur letempsdescerises.fr.
Merci Louis Gerbier, merci Jean-Michel Larquet, Jean-Pierre Papin, bravo à Pierre. Et dans un instant l'After Live, la 19e journée au CRPG.
Restez bien à l'écoute de RMC. Nous se retrouve lundi pour un Rotten sans flamme exceptionnel. Beaucoup de surprises, on lance Rotten sélectionneur. Et surtout, un invité exceptionnel sera là lundi. Ne ratez pas ça. Bisous, à lundi.
RMC jusqu'à
20h. Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.